secondes, je parlais dans le vide.
D'accord, c'était un faux départ.
Bonsoir à toutes et à tous. Fungloui. Apparemment, on a un lecteur en live. Salut à toi. Donc, moi, c'est Vonve. Celui qui est là-bas à droite, derrière un singe, c'est... Non, derrière le singe.
Oui, les poulpes. Oui, je
c'est
suis
Steve. Salut Steve, ça gaze ?
Oui, ça va. Bonjour, l'auditeur.
Comme vous pouvez le voir, on vous tente pour la première fois le Poulpcast live avec une webcam. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. On verra au moment de l'enregistrement, donc on va faire assez vite pour histoire que ça fasse pas péter Internet. Et comme vous pouvez le voir, il y a un deuxième poulpe. Salut petit poulpe de la case d'à côté. Yo. Et oui, c'est notre invité mystère.
Ingloui.
On a choisi un invité mystère, n'est-ce pas Steve, pour le sujet de ce soir qui est...
Tataillé et les extraterrestres.
Voilà. Parce que là, il est en train de fourrer sa main dans le...
Aïe, aïe, aïe.
Donc, le sujet de ce soir, concentrons-nous, c'est la rédaction d'un scénario. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on allait inviter qui ne soit pas mort, qui ne parle pas anglais, qui parle un français un peu... Voilà, un français approximatif. Ah, attention, Steve, je crois qu'il y a un bombardement.
Oui, il y a un bombardement en approche, bombardement orbital.
Oh, il y a deux lecteurs, attention les enfants. Et donc, bah, le troisième invité, il peut se découvrir, c'est JP, voilà. Le fameux JP que vous connaissez tous. JP, l'homme...
Salut à tous.
The Note Totally Dead, le fameux JP Online. Bah, présente-toi un peu, JP.
Voilà, donc moi c'est JP, hein, on me connaît un peu sur le net.
Bah oui, quand même.
Voilà.
JP, J... 2-E-P-E-E.
Attends, je vais peut-être couper le truc en direct parce que je m'entends, je t'entends parler en direct avec 10 secondes de décalage.
Non, ça fait l'écho.
Voilà. Donc,
on a un dégo disproportionné sur TOC, mais on s'écoute pas parler normalement. Ça, c'est les cellules.
D'accord. Oui, donc, moi, c'est JP. On me connaît un peu sur le net. Un blog, quelques jeux, puis une présence sur le net depuis.
JP.net. Bon, ça fait un moment.
Oui, ça fait déjà un petit moment.
La campagne de la Karatéka, c'est toi.
C'est ça, pas mal
de choses déjà sur TOC. Déjà,
ouais, donc, une époque, j'ai pas mal livré.
De la terreur. Les collines de la terreur.
Les collines de la terreur, exactement. Pas mal de petits scénarios, surtout de Delta Green, mais quelques autres scénarios avec Cthulhu classique, on va dire.
Et donc. Tu tombes bien ce soir. Attention, nous avons, comme vous pouvez le voir, trois lecteurs. Bonsoir à tous et à tous. C'est assez marrant d'ailleurs. si ça marche, ça peut être fun.
Un peu le trap qui monte là.
Oui, non, mais ça va aller. On va se détendre.
J'aime bien quand c'est... Donc, vous ne le voyez pas, mais nous avons préparé pour une fois quand même. Nous allons vous parler de la rédaction du scénario. La rédaction de scénario, bon, plus particulièrement adapté à l'appel de Cthulhu. Mais on va essayer de faire quand même quelque chose d'assez assez vaste et assez, je dirais, intéressant pour tout le monde, avec des problématiques différentes, parce que déjà, nous sommes trois à avoir des approches très très, je dirais, particulière sur l'écriture de scénario. Donc pour vous donner un petit peu le plan, pour que vous puissiez vous repérer à droite, donc on va commencer par le pourquoi de cette émission, pour nous voir, le de quoi on va parler, de quoi on parle, ensuite on passera au ce qu'on a intitulé l'idée, puis le système, puis la rédaction, que doit-on rédiger et comment doit-on le rédiger pour faire un bon scénario. Une partie rudement intelligemment appelée « J'ai fini !» Et comment renouveler le style ? Car oui, la rédaction d'un scénario passe par une possibilité de renouveler le style, parce que rédiger un scénario, ça veut peut-être dire qu'on a fait le tour de ce qui est déjà existant.
Mmh.
Donc, on va commencer un peu pour le pourquoi. Alors là, c'est surtout toi, JP, qui va parler, et puis aussi un peu Steve. Moi, difficilement, parce que pour faire bref, je n'écris pas de scénario. J'ai les pouces inversés. Regardez, je peux pas écrire. Pas possible. Alors que toi, JP...
Oui, moi, par contre... oui.
Dans mon oreille...
Je vais peut-être casser un mythe.
Un problème.
Je vais peut-être casser un mythe, mais... Je n'ai jamais joué de scénario du commerce. Et Vlan, voilà, paf, c'est dit. Oh non, la vache.
C'est énorme.
Donc, j'aurais pas dû dire.
Mais on est d'accord.
Oui, non,
ce que tu veux dire, c'est que t'as jamais pris un scénario du commerce comme ça de fourri. Tu l'as lu et tu l'as fait jouer comme ça.
Non, jamais.
Et toi, non, Steve, parce qu'on va essayer de faire du modéré. Moi, j'ai jamais écrit un scénar, JP a fait que finalement d'en faire du perso, et toi, Steve?
Bah écoute, il m'est déjà arrivé d'écrire quelques scénars, mais de mémoire, c'était pas plus de 4, 5, et toujours contraint et forcé, hein. C'était pour des conventions, si vous m'entendez les gars.
Ah ouais, sous la menace.
Oui, bon, c'était des expériences intéressantes, mais j'ai pas vraiment une grande expérience.
Ah, ça c'est intéressant, parce qu'on commence par le pourquoi. Donc toi Steve, quand tu dis contraint et forcé, tu veux dire quoi? Tu veux dire que t'avais pas de scénar sous la main, ou comment ça se passait? Pourquoi t'es obligé de...
Les fois où j'ai écrit des scénars, c'était comme je l'ai dit, systématiquement dans le cadre de conventions où les organisateurs avaient besoin d'une base écrite. Mmh. Et moi, je fonctionne beaucoup avec des notes, des documents. J'ai beaucoup de documents quand je bosse, mais il est rare que je rédige des choses pour d'autres utilisateurs. Et quelque part, la rédaction d'un scénario, c'est vraiment le moment où on décide de partager ce qu'on a fait avec d'autres personnes et de le rendre exploitable. Et moi, ça m'est assez rarement arrivé, en fait, de rédiger quelque chose qui soit léché, fini, terminé.
C'est-à-dire que là, on te demandait de rédiger pour une convention.
Oui.
D'accord.
Et toi, JP,
là, par contre, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, Steve.
Moi,
j'écrirais plutôt, j'écris d'abord pour mon groupe de joueurs, mais toujours dans l'optique de le partager sur le web. Mmh. Donc, j'essaie toujours d'avoir quelque chose de quand même compréhensible par quelqu'un d'autre. Voire même essayer de travailler la présentation pour que ce soit...
Ça c'est marrant, quand je pointe la vidéo, on voit gros mon doigt. Non, je disais, toi tu dis que c'est pour le partager, JP. Je dirais que dans le pourcentage de ce qui t'amène à écrire tes scénarios, c'est quoi? C'est 50%, la moitié de ton envie, c'est parce que tu veux le partager, ou c'est parce que t'es un rédactionnel et donc comme tu l'as rédigé, tu le partageras?
Ouais, j'aime bien rédiger, mais au départ, j'aime bien le partager, surtout le partager.
C'est d'accord. Vrai. Donc ça fait quand même. Et alors là, la question qui suit, hein, tout le monde se la pose. Pourquoi pas les scénarios du commerce?
Alors, parce que je me suis toujours contenté des bouquins de base. Assez rapidement. Enfin, avec le bouquin de base des jeux, il y a généralement, allez, que ce soit pour l'appel ou pour d'autres, il y a quand même pas mal de matière dans les bouquins de base. Enfin, moi, je trouve.
Ah oui, alors, intéressant. Ça veut dire que tu n'exploites pas le scénario par défaut du bouquin de base.
Non, pas en tant que tel. Non, non.
Mais alors, pourquoi? Basiquement, pourquoi tu vas pas faire la maison Corbit ou alors des choses comme ça?
J'avais déjà des idées préétablies de scénario avant même de commencer à lire l'appel. Donc, j'avais déjà lu pas mal de Lovecraft. Et donc quand j'ai découvert le bouquin, j'avais déjà pas mal d'idées, donc
d'accord.
Ça s'est pas vraiment posé. Ça.
Mais en fait, je me demande, JP, si tu rédiges, c'est parce que le bouquin de base, le scénar du bouquin de base ne te donne pas satisfaction, ou bien est-ce que c'est parce que en fait, t'as tellement d'idées et t'as tellement d'imagination que t'as d'abord envie d'exploiter d'autres idées.
Non, j'irais plutôt.
Est-ce que c'est un trop-plein ou est-ce que c'est plutôt un dépit?
C'est plutôt un trop-plein. Ce serait plutôt un trop-plein dans ce cas-là. Ouais. Je vois ça plutôt comme. D'ailleurs, c'était un de mes problèmes majeurs, c'est d'arriver à faire le tri dans mes idées et de me tenir à une idée pour pouvoir écrire quelque chose.
Alors parce ça c'est marrant.
Ça part toujours dans tous les sens et forcément pour arriver à recadrer.
Revenons rapidement sur le processus. Ça veut dire que t'as lu du Lovecraft, t'as trouvé un jeu de rôle et finalement c'est devenu un exutoire pour tes idées et en faire des scénarios.
Ouais, je dirais ça.
Ah c'est excellent ça.
Je dirais ça.
C'est bon.
Bon maintenant il y a certains scénarios que j'ai écrits qui sont presque des adaptations pile poil de nouvelles de Lovecraft. Hein.
Attention, c'est un sujet que nous allons aborder.
Voilà, donc, ça, bon, ça le sera pour l'inspiration. Par contre, un des seuls autres choses que j'ai acheté, vraiment autre que le livre de base, c'est le supplément Delta Green. Ça, c'était vraiment de la bombe atomique.
D'ailleurs, tu vas nous en parler après, mais c'est parce que on peut considérer qu'un supplément de contexte fait déjà un cadre pour les scénarios.
C'est ça. Ouais. Ça a été vraiment.
D'accord.
Voilà.
Et quand tu parles du supplément Delta Green, tu parles du bouquin de base de Delta Green, alors.
Oui, parce qu'il y a eu Countdown, etc. Non, ça, j'ai jamais acheté. J'avais déjà suffisamment de matière à exploiter.
Les pauvres, Il est pauvre, JP. Envoyez 10 sous. Ça coûte 10 sous à JP.
Non, non,
argent. Argent. Enfin, argent. D'accord.
Ça coûte cher aussi, hein.
C'est vrai, c'est vrai, ça coûte cher.
Allez.
Bon, attends, avec Toc, me dis pas que t'as pas assez de scénar. Bon, donc, maintenant qu'on sait pourquoi on va faire cette émission, de quoi on va parler? Alors, la première question qu'on se pose, je me rappelle pas trop pourquoi on se la pose, mais c'est intéressant comme question, donc on va continuer à se la poser. C'est, est-ce que ça a un sens d'écrire un scénario?
Ben, en fait, c'était moi qui avais posé cette question, parce que,
voilà.
Comme d'habitude, j'aime bien me prendre un peu la tête et je t'emmerde. Hein? Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué qu'il y a certains systèmes de jeu dans lesquels l'écriture et, disons, le fait de penser un scénario en amont, ça n'avait pas vraiment de sens. Et là, je peux citer... on pourrait citer pas mal de jeux de rôle, mais pour coller à l'appel de Cthulhu, il y a un jeu qui a été écrit récemment, qui s'appelle Innommable, qui a été écrit par Christophe Beuclé, et qui prend le pari de construire un scénario au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire qu'au moment où on va commencer la partie, personne n'a d'idée précise de la manière dont le scénario va se construire et sur quelle thématique il va explorer. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a vraiment un sens à écrire un scénario?
Quoi, c'est un truc aléatoire? Alors, il décide au fur et à mesure de l'histoire en utilisant des tables ou ce genre de choses?
En fait, ils construisent une intrigue en y apportant chacun une petite part... de leur imagination et de leur
c'est un narrativisme.
C'est une narration partagée.
C'est une narration partagée. Attention, il se transforme.
Narrativisme. D'accord. Donc là, quand tu te poses la question, c'est de se dire, est-ce que dans des nouveaux modes de jeu un peu one shot quand même, faut l'avouer, est-ce que on peut partir sur des concepts où finalement on se lance sans avoir rédigé un scénario?
Moi personnellement, je n'y arriverai pas.
Moi non plus.
J'aurais dû. Enfin, je l'ai déjà fait, mais j'apprécie plus la construction traditionnelle.
J'aime bien partir d'un canevas un peu défini au départ.
Alors ça, c'est. On va rebondir là-dessus.
On va y arriver. Hein, on va en parler aussi.
C'est intéressant, c'est de se dire en quoi ça a un sens. Donc toi, JP, tu dis c'est parce qu'il te faut un canevas, c'est-à-dire qu'il te faut des points d'ancrage.
Des points d'ancrage, oui, c'est ça. Des modules ou des points de passage obligés dans les scénarios. Même si les joueurs ne le font pas nécessairement dans l'ordre préétabli, quoi. Voilà. Mais bon, maintenant il y a de la pro entre les coups, mais.
Mais il te faut des points, Steve. Steve, toi, d'avoir un sens à l'écriture du scénario, ça serait quoi?
Moi, c'est plutôt pour avoir des références, c'est-à-dire des noms de personnages, des noms de lieux, des cartes. C'est moins pour les scènes et pour les personnages, mais c'est plutôt, comme dit, pour des références bien particulières.
D'accord, ouais, finalement, toi, les scènes vont venir des personnages et des situations, quoi.
C'est plus du bac à sable, ou ça se rapproche du bac à sable, ou
dans la mesure du possible, j'essaie vraiment de rebondir sur ce que proposent les joueurs, et sur la manière dont ils orientent l'intrigue. Là, c'est bien sûr dans le cas où j'écris l'intrigue moi-même, où j'écris le scénario moi-même, et où je me réfère pas à un scénario du commerce, bien entendu.
D'accord, donc finalement, toi, Steve, t'aurais une galerie de perso. Et puis toi, plutôt JP, ça serait plutôt des points de passage du style, début de l'enquête, résolution de l'enquête,
et des indices entre les deux. Les joueurs trouvent les indices et à eux de mettre le puzzle dans le bon ordre.
D'accord.
Mais bon, c'est surtout adapté à l'appel de Cthulhu, hein, parce que j'allais dire l'aspect bac à sable, comme le présente un peu Steve, hein, si j'ai bien compris, je l'ai utilisé pour des mini-campagnes médiévales fantastiques à la donjon, et ça marche plutôt bien aussi.
Mais bon. Ouais. Là, quand c'est axé un peu enquête, le fameux système de la pelure d'oignon où on découvre au fur et à mesure les choses, si c'est que de l'impro, ça peut être délicat, et avoir des points, quand même, c'est assez intéressant.
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Ça, donc, c'est plutôt ma manière de travailler pour écrire un scénar.
Est-ce que ça a un sens? Oui. Parce que sinon, on serait pas là.
Sinon, ça a toujours un sens d'écrire un scénario.
Donc, on va se dire qu'on a trouvé un sens à la rédaction d'un scénario. On enlève les expériences narrativo spécialistes. Maintenant, on est assez d'accord quand on a mis au point, je dirais, ce podcast, de se dire, finalement, la première chose crucial pour un scénario, ça va être ce qu'on a appelé l'idée.
L'idée fondatrice. L'intrigue. L'idée, le fil conducteur.
Alors l'idée, elle se base sur plusieurs données qui, pour moi, une des données essentielles, c'est déjà qui va-t-on faire jouer? Déjà, un, est-ce qu'on le sait? Deux, si on le sait, est-ce qu'on connaît leur façon de jouer et est-ce que c'est ça qu'on essaie d'exploiter? Ou inversement, on connaît leur façon de jouer, mais on veut faire autre chose pour les dérouter. Ou alors on les connaît pas du tout, et dans ces cas-là, comment on s'adapte? Donc, est-ce que pour vous, l'idée originale est influencée par votre public, votre futur public? Et puis notamment toi, JP, dans le cadre où finalement tu vas le diffuser et où tu sais pas qu'est-ce qui va le faire jouer. Est-ce que l'idée influence quand même, est influencée par ça?
Bah, disons des idées, moi j'en ai toujours plein. Voilà. Mais je fais généralement jouer toujours le même groupe. Et donc je sais un peu leur manière de jouer, je connais déjà leur perso, parce que bon, le perso a un peu de background et s'est développé au fur et à mesure. Donc je sélectionne.
L'idée nouvelle, elle vient d'où?
Ah, tu cherches.
Vient l'idée.
De partout.
Si tu connais ton groupe, tu sais comment il réagit.
Bah, j'essaie déjà faire le tri entre les idées qui marcheront avec eux, celles que je peux essayer et celles où ça marchera pas du tout parce que bon, c'est pas du tout leur style de jeu. Ou...
D'accord.
Je connais leur manière de jouer, donc je sais le genre de choses qu'ils apprécient. Maintenant, j'essaie de parfois amener des choses un peu différentes. Pas une intrigue.
T'as déjà essayé, dans le cadre de tes écritures, de rédiger quelque chose qui ne soit pas fait pour tes joueurs ou pas?
Ouais, je dirais oui. Ouais.
C'est déjà arrivé, ouais, d'accord. Bah,
j'ai pas nécessairement fait jouer à mes joueurs parce que bon, je savais que ça leur plairait pas, mais moi j'avais envie de développer l'idée, donc j'ai écrit le scénar ou ce genre. Voilà. Ouais.
Et de ton côté, bon, Steve, l'idée, elle est influencée par ton public ou pas?
Disons que pour moi c'est vachement plus délicat puisque quand j'écris dans le cadre de convention, je ne sais pas à qui je vais avoir affaire. Ouais. Alors j'ai plutôt tendance à écrire en fonction de mes goûts et aussi un peu en fonction, disons, une sorte de stéréotype imaginaire, s'il existe, du joueur de Cthulhu. Qu'est-ce qui pourrait faire triper un joueur de Cthulhu français ou francophone en tout cas?
Et puis
moi c'est un peu, si tu veux, la démarche inverse de JP. J'écris rarement pour mes joueurs réguliers, et plutôt pour des joueurs inconnus. Mais malgré tout, récemment, j'ai commencé à écrire une campagne avec un copain, et je prends effectivement beaucoup de plaisir à écrire pour mes joueurs réguliers. C'est une expérience qui est vraiment sympa.
Moi, tous les joueurs réguliers, ils préfèrent le pulp. Donc, tu vois, l'horreur lovecraftienne, par exemple, ça les touche un peu moins. Par contre, moi, j'adore. Donc, quand j'ai un scénario un peu plus action, c'est pour eux. Quand c'est un scénario un peu plus horreur glauque, c'est pour les autres.
C'est bien, je pense.
Voilà.
Bien
joué. Par contre, Steve, pour l'écriture de scénario pour convention, c'est peut-être plus orienté initiation ou découverte. Parce que je veux dire, les choses un peu expérimentales, c'est peut-être un peu risque de refroidir les nouveaux joueurs qui découvriraient l'appel pendant une convention.
Ben, j'ai tendance à être assez nazi dans mon écriture, tu vois. J'en ai peur à la fin. Non, je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que quand j'écris en convention, effectivement, je pars jamais du principe que je vais jouer ou que mon scénario va être joué par des débutants. C'est peut-être une erreur. J'essaie toujours de proposer des challenges un petit peu plus pimentés parce que je me dis quand on va en convention c'est pas forcément pour faire du héritage porte monstre trésor
traditionnel. Votre vieille grand-mère est morte,
ça, voilà. Ça on reviendra dessus au lancement, donc on va juste essayer de poursuivre.
Encore juste un point par rapport aux débutants, je pense aussi que parfois présenter des challenges un petit peu pimentés à des débutants, ça peut justement les rendre vachement accros et leur donner une expérience qui sera vraiment sympa la prochaine fois.
C'est vrai.
Un truc original, ouais. Et donc, l'idée. On revient à notre premier point. L'idée, JP, tiens, reprends la main. Où est-ce qu'on la trouve? Tu peux lister, là.
Oui, je peux lister. Bon. Beaucoup de lectures, évidemment, hein. Toute l'œuvre de Lovecraft. Alors, J'avais pris des notes. Oui, dans le désordre, les œuvres de Lovecraft. Pas mal de films, hein. Le cinéma forcément, énormément. Bon, ça va être bateau, hein, mais les films, les séries. Il y a quelques jeux de rôle que j'ai trouvé vachement inspirants dans le cadre de l'appel de Cthulhu aussi, notamment Lacuna, pour ceux qui connaissent. Bon, ou Call City.
Ouais, c'est des trucs un peu récents, ça.
Ouais, ouais, c'est un peu récent. Mais bon, c'était des...
Call City avec le... ça, non?
Non, je connais ni l'un ni l'autre.
C'est pas narrativiste. Ah non, non, non. Non, la Kuna, il joue plus sur le l'onirique. Ça D'accord. peut être pas mal pour offrir d'autres perspectives aux joueurs.
D'accord.
Et Call City, c'est t'avais... un...
Si t'avais à citer récemment une série... Une série dont tu t'es inspiré?
Une série dont je me suis inspiré.
Bah, Fringe, okay. non?
Ouais, un peu.
Walking Dead?
Walking Dead, forcément, hein. Forcément.
Et toi, Steve, une série dont tu serais inspiré, t'aurais pu t'inspirer récemment?
Non, écoute,
Pas de série?
Rien de particulier ici, mais, non, non, mais pour d'autres raisons, peut-être des séries qui n'ont rien à voir, du genre Battlestar Galactica, mais plutôt pour la manière d'aborder le scénario, les flashbacks,
D'accord.
Ouais, ça peut être pas mal aussi, les flashbacks, les sauts temporels ou les souvenirs des joueurs, leur faire jouer ça peut être pas mal.
On va y revenir, en effet, parce que bon, on peut tirer des idées des livres, des BD, qu'est-ce qu'on a noté.
J'avais noté aussi. Moi, j'utilise un truc qui peut être pas mal aussi, c'est tu chopes une illustration et puis tu essaies d'imaginer une histoire là-dessus. Mmh. Ça peut être pas mal aussi.
Mmh. On oublie aussi les scénarios. C'est vrai que parfois, en lisant un scénario qui est peut-être mal fichu ou qui ne convient pas, on trouve des fois des super bonnes inspirations. Ouais.
Ouais, je lis pas mal Casus, il y a pas mal de choses intéressantes.
Des personnages, ouais. Des lancements, des fins, des... Ouais,
des reportages historiques.
Ouais.
historiques.
Bah, notamment l'histoire du documentaire, le mystère, ou c'était quoi, les merveilles des pyramides, là?
Ouais.
Le mystère des pyramides.
J'avais eu pas mal de documentaires intéressants sur les extraterrestres et toutes les théories qui s'y attachent.
Pour Delta Green, là, c'est du pain béni.
Ouais. Ouais, exactement.
Avec les météorites qui sont tombées récemment.
Oui.
Donc, d'accord.
Ouais, donc les inspirations ne manquent pas.
Hein. Et finalement, là, c'est bien gentil ce qu'on dit, mais si mes joueurs, ils ont vu la série, ils ont lu le bouquin, parce qu'on peut dire que s'ils sont intéressés par Lovecraft, ils ont lu Lovecraft. Donc,
Ouf. Si, mais tes joueurs, tu les exorcises.
Donc, comment tu fais dans ces cas-là, JP? Imaginons que tu veux t'inspirer de Walking Dead,
s'ils connaissent la série. Bah, je crois que Walking Dead, même si tu as vu la série, un bon petit scénar de zombies, ça marche toujours. Attention. Hein.
Là, je suis pas complètement d'accord. Bah, là, tu t'inspires pas vraiment de The Walking Dead, parce que The Walking Dead, c'est du zombie, mais c'est le fait de la survie par un
groupe. Oui, la psychologie des personnages, etc. D'accord. Ça, c'est clair que...
Bah, tu peux prendre certaines thématiques qui sont dans certains épisodes et les transposer. Je pense par exemple là au pif au gars qui se fait infecter et on sait qu'il a qu'un certain temps avant de devenir zombie. Tu peux très bien reprendre ça à la sauce Toulouse et dire que un gars commence à présenter certains symptômes,
certaines
transformations en profond et de savoir que avant la fin de la campagne le mec risque de passer l'arme à gauche, quoi, à devenir un profond.
Ben c'est une technique que j'avais utilisée pour The Return of the Not Totally Dead avec les zombies, hein. J'avais quelques joueurs qui dont les personnages avaient été peut-être infectés, mais bon. Donc
d'accord.
Du coup,
donc finalement tu peux avoir un... En fait, on peut extraire un peu de tout, parce que par exemple, quand on prend un film, on peut extraire des personnages types, on peut extraire une façon...
Tu parles de film, Inception, très bon film, pas mal de choses à reprendre dans un scénario cthulhesque ou d'horreur.
Ouais, vache, faut des
cerveaux, quand ça, même, hein. C'est une intrigue à tiroir, évidemment.
Pontypool, regardez, Pontypool.
C'est quoi ça? Pontypool?
Pontypool, avec un P. Ceux qui l'ont vu me comprendront. Pontypool. Je m'en avais pas plus.
Je prends note.
C'est un film?
Oui, c'est un film. Regarde-le. J'ai regardé Quand les aigles attaquent. C'est cool.
Ah ouais, Quand les aigles attaquent, c'est bien ça.
Bah, c'est vrai, ça comme film.
Donc, en réalité, on peut donc s'inspirer de personnages, on peut s'inspirer de la façon, de la narration, comment c'est construit, ouais, tout à fait. Parce que, la complexité, les flashbacks, il y a même la narration inversée pour certains films dont je parlerai pas le nom parce que sinon les gens ne seront plus surpris. Et avoir, ça peut être aussi des accroches.
Oui.
Par exemple, si on prend Alien, on en parlait, mais ça peut être aussi l'accroche. Ça peut être très sympa de commencer par Tu te réveilles, de cryogéniser,
Voilà.
À côté de Sigourney Weaver. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre? Bah, quand on parlait, par exemple, de l'infection, il y a un très bon film avec Dennis Quaid qui s'appelle Mort à l'arrivée, qui est justement basé sur le mec qui s'est fait empoisonner et tout le film, ça va être de, il doit retrouver la personne qui l'a empoisonné et puis il a un temps à limiter, c'est très
sympa. L'antidote.
Exactement. Il y a quoi? Il y a les lieux. Par exemple, moi, quand je pense à des lieux, je pense à Rivière Pourpre. Rivière Pourpre, ça marche aussi avec finalement une BO qui peut te donner l'idée d'un scénario.
Ah oui. La musique peut aussi influencer pendant l'écriture, pendant le jeu et aussi au niveau de l'inspiration, c'est clair.
Définitivement.
Ça t'est arrivé, Steve, toi, d'avoir une idée de scénar en écoutant de musique?
Complètement, et ça m'arrive encore régulièrement. Ouais. C'est ben là, juste avant de commencer. Avant de commencer le Hangout, là, j'écoutais la dernière BO de Assassin's Creed 3, et il y a un thème qui est vraiment fantastique et super épique, et je réfléchissais à la manière de le caser dans la campagne que je suis en train de jouer.
D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai récupéré, elle est disponible sur le net, la BO du jeu The Walking Dead, qui est excellent, le jeu The Walking Dead, qui est
un super jeu. Le point de critique.
Ah ouais.
Oui, mais on a dit beaucoup de bien. Non, j'ai un collègue qui a joué...
Ah non, mais ça fait jouer. Parce que c'est mieux que la série et mieux que le comic. Donc, ok, finalement, les sources d'inspiration, on les a partout. Le truc, c'est vraiment d'être à l'écoute.
Moi, ce serait peut-être un peu mon problème. C'est trop de sources d'inspiration, trop d'idées qui arrivent, trop de choses. Je vois un film.
Alors, ça, c'est intéressant. On va rebondir sur quelque chose rapidement. C'est. Qu'est-ce que tu fais? Tu les notes tous? Tu fais un tri? Tu te dis qu'en les notant pas, celle que tu retiendras, ça sera les bonnes? Tu fais comment?
Ben, y en a qui reviennent régulièrement. Et au bout d'un moment, ben, j'arrive à construire une idée un peu plus...
Quand tu commences à rêver de zombies, tu te dis, faut que je fasse un scénario sur les zombies.
C'est le moment.
Non, mais disons que y a des idées qui reviennent régulièrement et à partir d'un certain temps, ça devient une idée plus construite. Et là, alors, je peux commencer à écrire un scénar. Mais sinon, j'essaie de noter les idées au fur et à mesure. Ça, ça peut être ça, des mini synopsis ou ce
comme
genre
ça,
de choses.
Pouf, pouf, ouais. Pouf, sans trop réfléchir.
À la volée. Ça peut aider.
Juste dans le cadre de la campagne que j'ai dit. Avant, je le faisais pas, mais je me rends compte que c'est vraiment en plus. Souvent, on a d'excellentes idées, et hélas, pour moi en tout cas, elles passent. Et quand on les écrit, les écrits restent.
Voilà. Et parfois, je me suis surpris à ressortir des vieux trucs que j'avais écrits des années avant et puis les compléter, et puis ça devient quelque chose.
Finalement, il suffit de noter, par exemple, un personnage borne ou un personnage boiteux, et hop, le jour où on l'a bien noté et puis qu'on s'en rappelle et qu'on veut monter un scénario, on se dit « Mais oui, c'était ça l'idée, le personnage boiteux qui claudique en arrivant. »
Et surtout qu'aujourd'hui, on a vraiment moyen d'écrire nos idées sur un support centralisé, un peu de n'importe où, quoi.
Oui.
Il y a des outils qui existent pour pouvoir écrire nos idées depuis un téléphone, que ça soit centralisé avec...
J'utilise Google Docs pour noter pas mal de choses.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, il y a ça, il y a même le côté dictaphone, la plupart des PDA.
Everest, ou je sais plus comment ça s'appelle.
Evernote.
Evernote, ouais, qui est vraiment sympa, et qui permet de mettre des notes orales qui sont automatiquement transcrites en texte, au cas où ça intéresse certains.
Ah, ça peut être bien, ça. Il faut avoir une bonne diction.
Et en plus, Evernote, il est synchronisé entre PDA, et puis finalement, t'as un compte online, donc il n'y a pas de souci. Donc, ok, on a finalement, tant bien que mal, on a l'idée, on peut dire que même l'idée, je dirais, on a un peu le type de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis là, mais bon, c'est vrai, un peu le type. On nous a posé une question, c'est Humble et Omniscient qui nous pose une question à mon oreillette. Oui, Humble, d'accord. Quels sont les sujets de scénarios à éviter, trop utilisés ou autres, à votre avis? Alors, est-ce qu'il y a des scénarios, des sujets? Je ne sais pas si Humble veut dire les lancements, parce que souvent c'est ce qu'on reproche à Cthulhu, ou si ce sont juste les sujets. C'est vrai que les sujets les plus bateaux, c'est le petit type qui veut monter sa secte, ou des choses comme ça, quoi.
Maintenant, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, hein, comme on dit chez nous. Et souvent, les idées qui paraissent les plus bateaux, c'est celles qui, en jeu, fonctionnent le mieux. Ça, j'ai déjà remarqué.
Alors déjà, Humble ne prend note de ce que JP a dit. En effet, il faut pas se couper l'herbe sous le pied, et finalement, un bon sectateur, bien documenté, avec une bonne ambiance.
Un bon héritage, avec un truc caché. La grand-mère qui est morte, le vieux manoir.
Grosse doc, c'est une grosse doc chez le notaire, quoi. Pas l'héritage, genre, ah bah tiens, vous avez une maison. Non, 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 le truc, pas. Mm-hmm. Vous avez une cave, vous avez machin. D'accord, donc, ouais, tu. Les sujets à éviter, il y a pas vraiment. Je trouve qu'il y a pas vraiment de sujets à éviter.
Disons, ça dépend aussi de ton public, hein, ça dépend de tes joueurs. Si t'as des joueurs qui sont particulièrement, disons, qui ont une sensibilité particulière à certaines thématiques, je pense notamment à la thématique du racisme ou.
Oui.
Des femmes enceintes, j'avais un joueur qui supportait pas les scénarios dans lesquels il y avait une femme enceinte, tu vois.
Ah bon.
Qui était impliquée, genre le monstre dans le ventre, tout ça, ça le rendait malade.
On rentre pas forcément là dans le type de scénario trop utilisé, parce que c'est pas excessivement utilisé.
Non, mais si t'as des joueuses, c'est un peu.
La question qui était posée par Humble, c'était quels sont les sujets de scénario à éviter. Et il donnait les exemples trop utilisés ou autres. Donc je dirais éviter ce qui déplaît viscéralement à vos joueurs.
Tout à fait.
Mais en termes de déjà utilisé, je dirais si, faites-le. Ressortez le scénario avec le vieil héritage au début, la vieille baraque, et essayez après de tromper un peu les réflexes de vos joueurs. Partez sur toute autre chose, surprenez-les. Il y a des chances pour que la sauce prenne vachement bien.
Ouais, et puis, je viens de relire un scénario qui est sur TOC, qui s'appelle, je sais plus, La Maison des Souffrances, un truc comme ça, et tu prends le principe de la maison hantée, et au contraire de faire venir les joueurs de façon à moitié impromptue, genre, ça n'est pas, tu leur dis, voilà, on vous offre $10,000 si vous restez 24 heures dans la maison.
Pas mal.
Personne n'a réussi.
Pas mal.
Ça me fait penser à La Cabane dans les Bois. Le film d'horreur là, qui était pas mal aussi celui-là, hein, voilà, qui revisitait un peu le standard. Hein. Ça commençait avec des jeunes dans une cabane au fond d'un bois. La cabane est soi-disant, il y a des monstres, on ne sait pas. Et puis, je vais pas en dire plus parce que ça spoilerait. Mais
voilà. T'as d'autres, tu prends la cabane, tu prends la maison. En réalité, au lieu que ce soit les investigateurs qui soient le fruit d'un héritage, tu les fais avoir un accident de voiture juste à côté, ils vont chercher de l'aide, et là, ils arrivent pendant l'héritage qui est en train de se faire une famille dans une maison à côté, et là, ils demandent de l'aide, leur achète des chaînes, la voiture repart pas, et paf, ils restent le soir même pendant l'héritage. Et ils sont pris à partie.
Voilà. Ou autre traitement, tu leur ressors la même séquence d'héritage, tu les fais arriver de nuit, et puis petit à petit, ils vont se rendre compte qu'en fait, les personnages sont des ghouls. Et tu leur dis pas de suite, mais petit à petit, ils le réalisent. C'est normal.
Oui. Donc voilà, les vieilles casseroles, les meilleures soupes, hein, c'est ce que je disais.
Hein. Le truc qu'il faut se dire, les trucs à éviter, c'est vraiment le trop standard, quoi. C'est-à-dire que si tes joueurs, ils ont déjà fait plusieurs parties, c'est sûr que partir sur un truc à la con,
j'ai fait
d'entrée et tout ça, ça partira pas.
Je veux dire, après ma campagne Karateka, mes joueurs, ils avaient assez cassé de nazis, c'était bon, quoi, il fallait changer, hein.
Et après,
pourquoi ne pas les obliger à s'allier avec les nazis pour un mal plus grand, contre un mal plus grand.
Ouais, ça c'est délicat. C'est peut-être les thématiques à éviter, non?
Bah, on est comme dans du pulp.
Moi, j'aime bien les nazis.
Oui, oui, oui. ça fait des bons méchants.
C'est vrai, je suis en direct.
Attends, c'est ce que tu dis.
On a fait dire que tout ce qu'on laisse ce genre de remarques.
Pour tous ceux qui ont vu une glorieuse bastarde, on peut pas ne pas aimer les nazis. Donc, c'est ça. Finalement, il n'y a pas tellement de thématiques, je dirais, à ne pas utiliser. Après, c'est le traitement qui peut être vraiment classique. Et après, toutes les thématiques un peu bidouillées, un peu mises à l'envers, un peu retournées. Voilà, c'est comme quand on dit j'ai fait tout le tour du jeu de rôle Star Wars. Bon, ben, joue un peu l'Empire, tu vas voir. T'auras plein de moyens, t'auras plein de vaisseaux, t'auras plein de thunes, c'est cool.
Excellent. Voilà.
Be bad.
Moi, je pensais à un truc en termes de sujets à éviter. Moi, il m'est déjà arrivé de jouer à des scénarios dans lesquels on me proposait des thématiques qui étaient super exotiques par rapport à ce à quoi je m'attendais. Du genre, on me proposait du Star Wars, et puis tout d'un coup, je me retrouvais dans une cité sous-marine en train de parler avec des poulpes vivants. Tu vois, et j'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie de visiter des canons qui étaient plus communs au genre. J'avais pas envie d'aller sous la flotte en train de discuter avec des Gungans, tu vois, avant l'heure, hein, c'était avant. Donc du coup, je dirais aussi, n'allez peut-être pas emmener vos personnages dans les contrées du rêve chasser le gug à dos de zèbre si ils veulent du vieux dark
tout à fait.
De la maison hantée.
Tout à fait, ouais. Ouais,
ouais, non, c'est
clair. Faut vraiment ça dépend du public. Ouais. Ça dépend du public aussi.
Exactement. Ok, donc on a un peu fait le tour des idées, hein. Je pense que pour les inspirations et tout ça, la lecture, les émissions, les films, c'est...
Le cinéma, les séries, les documentaires.
Bougez pas, je vais fermer la porte. Le truc qui peut revenir après, mais je peux toujours parler. Le truc qui revient après, c'est de se dire, parce que bon, on a Steve dans le podcast. Est-ce que, à l'heure actuelle, vu que tout le monde fait du Kickstarter et tout ça, de toutes ces merdes, finalement, est-ce que...
Ah non, il y a de belles choses en Kickstarter.
Tout va disparaître parce que personne n'aura mis de la thune et les mecs, ils vont pas publier. Ça sera nul. Non, mais là, j'ai raison. N'essayez pas de discuter, j'ai raison, point barre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... on peut commencer à se poser la question du système de jeu. Au moment où on va rédiger un scénario, c'est de se dire, j'ai l'idée, j'ai sans doute l'équipe, j'ai le thème et tout ça, mais finalement, est-ce que j'aurais pas un système qui s'adapterait mieux à mon idée et à mon scénario qu'un autre? Qu'en pensez-vous?
Alors, je mets ma casquette de technicien. Attention. Ouais, non. Tu soudes une vieille plaque sur un camion et ça fait un système de jeu. Ouais, non. Mais moi, je dirais que, oui, effectivement, le système de jeu de l'appel de Cthulhu, c'est le système de base, il est assez gritty.
Il permet de tout faire.
Il permet de tout faire, mais au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec des joueurs, quand on a 80% avec le maniement d'une arme à feu, il n'y a plus moyen de rater une cible.
Ça, c'est parce que soit tu as mal jaugé la création de tes persos, soit ils jouent depuis longtemps, ils ne sont pas assez morts.
Ils jouent depuis assez longtemps et je ne tue pas assez souvent mes joueurs. Enfin, mes personnages.
C'est un mal, ma pauvre. À la vôtre. D'accord. Mais
non, donc, par contre.
Avec l'appel, qu'est-ce que. Donc le côté gritty, c'est-à-dire tu.
Mais j'allais dire. Tu peux déjà définir ce que tu entends par gritty pour les gens qui ne savent pas?
Mais j'allais dire plus réaliste, plus mortel. Et qui limite un peu plus les personnages, surtout au début. Hein. Bon, maintenant, à partir du moment où ils ont beaucoup plus de points de compétence, enfin de pourcentage dans leurs compétences, ça peut aller mieux. Mais par contre, j'ai fait jouer avec du Cthulhu D20. Mais là, la manière de jouer se rapprochait plus du, je vais dire, avec du Donjon Dragon. Et donc beaucoup plus d'action, beaucoup plus pull, beaucoup plus punch. Voilà. Donc oui,
t'as essayé du Savage World ou un truc comme ça ou du
Feng Shui? Non.
Ça se calque pas mal à la façon dont tu parlais que tes joueurs jouent. C'est-à-dire qu'ils sont assez. Par contre,
le système de Savage World était un peu trop complexe. Les cartes, les jetons, les dés en plus. Ouais. J'avais déjà essayé Deadland et là ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je l'ai
essayé. T'en as essayé d'autres, des systèmes ou pas?
Il y avait celui que j'avais essayé de pondre un petit peu pour Cthulhu Stagen. Voilà, mais bon, c'était peut-être un peu trop léger. Un peu trop léger.
D'accord. Pour, Steve, un petit gumshoe par exemple, t'as testé?
J'ai pas essayé.
Mon chapeau de technicien. Ce qui est difficile avec un casque.
Oh là 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 là. Des accessoires. Quel talent.
C'est que effectivement, le système a une couleur et en fonction de ce que tu veux proposer, et JP le disait vachement bien, c'est que si tu veux plutôt faire ce que moi j'appelle du hard pulp, donc ce que toi tu appelles gritty, tu vas pas forcément utiliser le même système que si tu veux faire de l'horreur lovecraftienne. Ils l'ont bien cerné dans la réédition du bouquin en 6ème aide. C'est vrai, mais après, il y a encore des systèmes qui sont plus dépaysants que ça. Et je pense notamment, déjà on pourrait les lister, en système Toulouse, il y en a pas mille, hein. On a le D6, son Chaosium, on a le Gumshoe, on a Toulouse Dark, on a, je crois même qu'il y avait un GURPS sur le truc, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment exploité.
L'adaptation, c'est Arctung Toulouse qui se base sur Savage World, je crois.
Ouais. Ouais, je crois, ouais. Après, il y a du D6. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait encore? Il y a Innommable, mais là, c'est un peu hors case, puisqu'on n'a pas de scénario. Qu'est-ce qu'on avait encore? Il y a aussi
La question pour revenir au sujet, c'est de se dire, est-ce que le choix du système influence ton scénario ou c'est l'inverse? Est-ce que du fait de l'envie de scénario que tu as, tu choisis un système?
Je pense que dès que tu prépares quelque chose, dès que tu as en tête quelque chose, quelques scènes, quelques personnages, à mon avis, c'est une question qu'on devrait se poser.
Et moi, j'ai très vite un système qui se calque sur les envies de scénario, de scènes ou d'actions, ce genre de choses.
Et tu switches de système.
Ben là, pour l'instant, je suis en train d'essayer de d'écrire un truc en utilisant un système beaucoup plus léger, mais adaptable.
D'accord.
Parce qu'avec le temps, j'essaie de consacrer plus de temps à l'écriture de l'intrigue et du scénario lui-même qu'à l'utilisation du système. Bon, je dispose pas énormément de temps pour écrire, donc du coup, j'essaie de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'histoire, avant le système.
D'accord.
Donc, au départ, j'avais le temps de me farcir des centaines de pages de règles. Maintenant beaucoup moins. Et donc, du coup, je préfère utiliser des règles qui tiennent en 5 pages et écrire une bonne histoire plutôt que de potasser des règles.
Tu veux dire que chaque fois que tu écris un scénario, tu risques d'écrire un petit système?
Disons que là, pour l'instant, je suis en train d'essayer de compiler un système qui va me permettre d'écrire plusieurs scénarios et d'utiliser toujours le même système pour le...
Et tu pourrais le faire varier.
Ailleurs, j'essaierai d'avoir des petites nuances pour jouer plus pulp ou plus action ou alors plus horreur.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire, bon, peut-être que c'est de ma fameuse quête du système universel, mais
toi aussi.
Mais Steve aussi. Hein.
Voilà. Quête du Graal.
Attention, je vais faire rentrer le
module. C'est un système modulaire à 38 gigawatts par heure.
Les voyages dans le temps, Marty. Non, le truc, c'est qu'on pourrait se dire qu'il y a un système, finalement, avec une partie enquête et tout ça. On pourrait, finalement, extraire des modules pour en faire ce qu'on veut pour une partie. Par exemple, si j'utilise que le système d'enquête de Gumshoe, je pourrais faire nickel un scénario enquête. Et alors que si je laisse le système enquête et je rajoute un système de combat, j'aurais un truc un peu plus pulp. Mais voilà, est-ce que ça reste mortel? Donc finalement, les conclusions que je tire à ce que vous me dites, c'est que finalement, il n'y a pas de système assez modulaire pour s'adapter à tous vos scénars, quoi.
Ouais, c'est un
peu. Non. Ouais.
Alors par contre, j'ai un truc qui est très intéressant, c'est que, excusez-moi, je rebondis encore, mais c'est que moi, quand je vais, alors j'écris pas tellement de scénarios. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que je fous là, moi? Non. Ce que je voulais dire, c'est que moi, quand je commence un scénario, je ne sais pas quelle teinte il va avoir. J'ai une teinte dans ma tête. Mais je ne sais pas ce que vont accrocher mes joueurs, je ne sais pas sur quoi ils vont m'emmener, et je dirais que ce qui est assez marrant, c'est que vous avez quand même une bonne idée de l'ambiance que vous allez emmener. J'ai une ambiance générale décrite par le scénario, mais j'ai pas finalement le déroulé, quoi. Si ça va se barrer en Indiana Jones, ou si ça va être du Carpenter, ou des choses comme ça. Mais vous avez déjà l'idée au moment de la rédaction.
Tout à fait. Oui. J'ai déjà l'idée au départ. Et puis, il faut que les joueurs jouent le jeu aussi. Hein. Donc, c'est clair que...
C'est du méta-jeu.
Est-ce qu'on oserait parler de...
C'est une remarque socialiste.
Non, je suis pas narrativiste. Mais non.
Narrativiste.
Il y a ce que certains appellent le contrat social. Moi, je dirais simplement, si on lance les joueurs sur une enquête et que eux ils ont pas envie et ils veulent aller de l'autre côté, bon, ça va pas fonctionner.
Ce qui est intéressant, c'est que tu le fais discrètement. C'est-à-dire que finalement, tu vas pas leur dire, ce soir, c'est enquête. Tu vas essayer de les amener discrètement, par petites touches, par ambiance, à se dire, c'est plutôt un scénario d'enquête, quoi. On n'a pas encore vu de flingue, ni de pépé, ni de dynamite.
Non, d'accord.
On va chercher à lire des bouquins, quoi.
Maintenant, quand ils savent qu'ils vont jouer à l'appel de Cthulhu, ils savent automatiquement qu'il y aura une intrigue derrière, un mystère à découvrir, une énigme à résoudre. Donc.
Ouais, mais tu vas les cuire, parce que si par exemple tu pars à l'envers, tu pars avec une amnésie, tu pars avec quelque chose d'onirique.
Ça, c'est l'accroche au départ dont tu parles.
D'accord.
Mais ça, donc,
tu leur as pas forcément dit, mais s'ils commencent à te connaître, en fonction du système que tu vas employer, ils sauront vers où tu veux les amener.
Éventuellement. Il est complexe. Hein. Non, mais non. Oui, on va pouvoir dire ça.
D'accord.
On va pouvoir dire ça.
Et mais de ton côté, quand tu es en convention, juste pour savoir,
L'idée à la base, moi j'ai une conception d'une partie de jeu de rôle qui se rapproche un peu, si tu veux, d'une sorte de concert ou Ouais, vraiment dans le cadre de quelque chose qu'on fait à plusieurs. Non, non, enfin, bah, c'est le Star System. J'essaye vraiment de faire une proposition, d'emmener les gens vers mon monde ou vers ma vision du moment pour le scénario. Et j'essaie vraiment de les plonger dans une proposition que je fais. Mais et là, je rejoins JP sur la question, et toi aussi, je t'ai entendu tout à l'heure là-dessus. Je pense que c'est important de garder beaucoup de souplesse. Si on sent que, comme tu le disais tout à l'heure, tout à coup, ils ont envie d'Indiana Jones, il faut pas commencer à bouder, à ronger son frein, et à faire bah, « j'ai préparé des tonnes de musique, et puis j'avais plein de signes sympas à vous filer, bah tiens, on arrête là, vous êtes tous morts !» Non, je pense que...
Il faudra s'adapter. Ouais, d'accord, JP.
Oui, il faudra s'adapter. Mais bon, ça dépend aussi, je dis ça dépend les joueurs, tu commences à les connaître, tu sais le genre de scénario qu'ils apprécient, tu sais ce que tu peux leur proposer qui risque de marcher, tu sais ce que tu peux leur proposer qui ne marchera jamais. Et donc là.
Alors c'est intéressant, tu le tenteras quand même, pour essayer de refaire passer un truc qui n'est pas déjà passé.
J'essaierai peut-être, mais bon, comme là aussi je ne joue pas souvent. Ouais, généralement, marche, j'essaie que ça marche parce que bon, quand on joue que une fois tous les quand on joue que voilà, c'est ça quoi. Quand on joue qu'une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, c'est dur de rater la soirée de jeu de rôle.
D'accord.
Maintenant, alors, pour la préparation de la partie en question, j'essaie toujours de les préparer un peu en teasant un petit peu, tu vois, donc.
D'accord, donc si ça va être déjà un peu, tu leur envoies une idole en ébène, quoi.
C'est comme un peu, ouais, je veux dire, c'est comme un peu la bande-annonce d'un film. Donc il y a moyen de les mettre en appétit, et à ce moment-là, quand tu commences la partie, ben, ça part tout seul parce que, et ça part dans le bon sens parce que tu les as préparés.
D'accord.
Et puis bon, ils sont là aussi pour jouer à l'appel de Cthulhu, donc.
Voilà. Avec JP. With JP. Une question pour toi, Steve, c'est que toi, comme tu joues plutôt en convention, t'as un système spécial pour les conventions, parce qu'on est sur le système, là, pour que ce soit rapide et que tu te fasses pas chier à leur expliquer.
Ouais, bon, je voulais juste dire, en fait, je joue très peu en convention, hein. Mais disons les scénarios que j'écris, effectivement, je les fais jouer. Et pour répondre à ta question, non, je pars toujours sur le système le plus connu, en fait, sur le Chaosium. Parce que je sais que derrière, quand je vais filer mon scénar à quelqu'un, tout simplement, il risque de connaître le système aussi.
Ah oui, c'est vrai que tu le donnes, toi, tu donnes le système.
Éventuellement, si j'ai des petits modules spécifiques, j'avais le cas, par exemple, pour une partie de Cthulhu adaptée au monde d'Alien, j'ai expliqué en deux lignes comment ça se passait pour gérer tel aspect technique.
D'accord. Mmh. Ouais, tu rajoutes un petit peu pour leur donner le cadre ou les choses comme ça, quoi.
Voilà.
Ouais, moi, mes joueurs habituels sont assez peu friands de système, et donc j'essaie toujours de lisser un petit peu les choses. C'est pas eux qui vont lire les règles et qui vont les connaître. Mais
Ok. Bon, voilà. Eh bien, messieurs, je crois qu'on a fait un peu le tour du système. Ouh, on va attaquer un petit peu plus là le vif du sujet, la rédaction. Parce que moi, le premier, si je dis que je n'ai jamais écrit de scénario, ça ne veut pas dire que je n'ai jamais essayé d'écrire des scénarios. J'ai essayé plusieurs fois, c'était un peu la merde. Parce que ben, je dirais que la première chose qui me gênait, c'était, comme nous le demande Groening, y a-t-il une méthode universelle d'écriture du style « je commence par l'étape 1, puis je passe à l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5 ?» Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a une méthode à donner?
Je sais pas, Steve, parce que moi j'ai pas de méthode spécifique.
Alors, je pense que le bordélisme. Enfin, moi je m'épanouis dans le bordélisme. Je suis à la fois méthodique, mais je cultive mon bordélisme, mais je l'entretiens. Je pense que c'est nécessaire pour moi d'avoir quelque chose de chaotique pour avoir un processus qui soit concluant.
D'accord.
Je te donne la main.
D'accord. Donc moi je partirais surtout quand je veux écrire, je pars surtout de l'idée directrice et j'ai souvent une idée assez précise de toute l'intrigue du début jusqu'à la fin, en tout cas en général.
Déroulé, mais alors du déroulé. Qu'est-ce que tu vas rédiger?
Je vais essayer de découper l'histoire en scènes, en morceaux, en modules. Avec
d'accord, bien par exemple, on prend un exemple, la maison Corbett, la découverte de la maison, l'enquête, l'arrivée dans la maison, la découverte de Corbett et la résolution.
Je veux dire, la scène d'intro, elle me semble assez importante, parce que c'est là que les joueurs vont comprendre, déjà un peu le début de l'intrigue et voir dans quoi ils débarquent. Après, bon, la conclusion, bon, si on a déjà une bonne idée de du scénar en tant que tel, on la connaît. Et alors, entre les deux, ben, je divise ça en petits modules.
Alors, c'est intéressant, alors, tu dis que la partie introduction est la plus importante. Ça veut dire que tu as un gros rédactionnel dessus, tu écris vraiment des textes?
J'essaye d'écrire quelques textes. Ça peut.
Que tu vas lire?
Je ne dis pas in extenso, mais généralement, ça aide à mettre en. Bon, je ne dis pas 3 pages, hein, mais si tu écris une quinzaine de lignes pour mettre.
Alors, que Monsieur Corbi remonte les choses.
Exactement.
Tu écris quand même pas mal sur la première partie. Ouais,
tu l'as bien vu dans la préparation du podcast. Hein, je suis assez. Assez rédactionnel, et c'est vrai que j'aime bien avoir quelque chose de relativement propre, en tout cas comme scène d'accroche. Après, j'écris des modules, je disperse les indices qui vont permettre aux joueurs de comprendre l'intrigue. Alors,
précisons le propos, quand tu dis c'est mon doigt, quand tu dis des modules, tu veux dire des lieux, des personnages, des scènes comme dans Star Wars?
J'allais dire plutôt oui, des points de passage où les joueurs vont apprendre des choses sur l'intrigue, et au fur et à mesure, ils vont pouvoir découvrir des pièces du puzzle et les mettre ensemble, les assembler pour essayer de trouver.
Si je comprends bien, tu vas dire il y a tel indice, tel indice, tel indice, et là, s'ils ont les trois, ça les mène à la conclusion.
Ils sont censés comprendre
les trois indices.
Et ils sont censés comprendre avec les indices. Et là où j'ai été assez surpris, pour des scénarios que j'ai écrits ou pour des scénarios que bon, j'ai ma sœur qui écrit aussi pour l'appel de Cthulhu, la difficulté n'est pas nécessairement de trouver les indices, mais d'arriver à les mettre ensemble pour former l'histoire et comprendre les tenants et les aboutissants. Et là, je crois que c'est le côté essentiel de la partie enquête, intrigue qu'on peut développer dans l'appel de Cthulhu.
De ton côté, toi, Steve, tu suivrais cette méthode de j'ai plusieurs indices et j'essaie de mettre des scénettes pour les faire découvrir dans un ordre?
Non, en fait, je n'y avais pas pensé, hein, tout simplement. Je dis pas que c'est une mauvaise méthode, mais pour moi, enfin,
moi, ce qui me fait peur, c'est le dirigisme et la linéarité.
Ouais, mais quand t'écris un scénario et que des gens doivent l'exploiter derrière, c'est vrai que si tu ne penses pas à écrire des listes d'indices ou des pistes desquelles elles découlent, les gens risquent d'être un peu paumés. Quand j'écris ma campagne, par exemple, je n'écris quasiment jamais d'indices. Sauf quand je pense à faire des props particuliers, voilà. Mais je me dis, je créerai l'indice au besoin sur le moment, en fonction de ce que mes joueurs font d'intelligent ou pas. C'est-à-dire maintenant, si ils suivent le gars qui leur a volé le bouquin et qui le rattrape et qui le suivent dans les égouts et qu'ils arrivent au bon endroit, peut-être qu'ils vont trouver, je sais pas moi, sa cache dans laquelle il va y avoir d'autres informations. Et je créerai les indices à la volée. Mais c'est vrai que quand t'écris quelque chose, finalement. Tu peux pas vraiment faire ça.
Je sais pas, par exemple, imaginons juste une question, Steve. Par exemple, tu veux les amener dans un musée où ils sont censés rencontrer un éminent professeur, machin. Comment tu fais dans ta rédaction pour les amener à cet endroit-là? Est-ce que tu te dis j'ai l'endroit et j'ai plusieurs pistes qui peuvent les amener? Est-ce que tu te poses l'endroit et tu te dis ils finiront bien en tournant autour par y arriver? Comment ça se passe de ton côté, Steve? Après, je vous demanderai à PJP.
Déjà, je pose l'endroit et ensuite je vais disséminer dans le scénario à 2 ou 3 autres endroits précédents ou suivants des liens vers ce nouvel endroit. Exemple type.
Genre un bouquin avec une petite carte marquée.
Ouais, où je dirais cette personne pourra indiquer aux joueurs l'adresse pour envoyer les joueurs vers le conservatoire du musée, et dans un autre chapitre, je pourrais mettre dans la boîte à gants de la voiture, il y a peut-être une carte qui renvoie vers ce musée. Tu vois, c'est un ou deux connecteurs.
Ça, ce sont des indices. Ça, c'est ce que moi j'appellerais des indices.
Voilà, oui, je pense qu'on se rejoint là-dessus, ouais.
Oui. Par contre, un truc que tu as dit, Vaughn, c'est des scénettes dans l'ordre. Je ne prévois pas nécessairement qu'ils les joueront dans l'ordre.
D'accord.
Donc j'allais dire, si je les prépare, je vais préparer à un ordre. Par défaut, ce sera cet ordre-là, mais il est tout à fait possible que les joueurs le jouent dans un ordre différent. Même complètement à l'inverse. Donc du coup.
Je dirais que c'est un peu la difficulté quand j'ai essayé d'écrire des scénarios, c'est que t'es rapidement confronté au fait que tu te fais une trame dans ta tête. Mm-hmm. Que tu te dis, ils vont faire ça, de là ils vont découvrir ça, de là ils vont dire. Et le problème, c'est que bon, même si tu mélanges les choses, les actions des joueurs à certains endroits vont déclencher des actions des personnages non joueurs qui, elles, auront des conséquences.
Ouais, tout à fait.
Donc dans la construction du scénar, la difficulté, c'est de se dire, par exemple, voilà, ils vont chez un tel, ça va lui mettre la puce à l'oreille, donc il va faire ça. Mais le problème, c'est que il va pas le faire si on n'est pas passé chez lui. Donc finalement, le scénar attend. Il est en mode stand-by jusqu'à ce qu'ils y arrivent et finalement, ça déclenche la suite. Donc, est-ce que...
Mais est-ce là, il faut faire un peu d'intro.
Un texte, on...
Bah, disons que si tu prépares suffisamment bien tes lieux, tes PNJ, tu les définis suffisamment bien et que tu connais bien leurs motivations, tu vas pouvoir improviser, je vais dire, les un peu comme des pions que tu déplaces sur un échiquier, tu vas pouvoir improviser leurs déplacements au fur et à mesure par rapport aux actions des joueurs.
Est-ce que la solution qu'on avait mis en place pour certains scénarios, quand on les avait fait transformer du système de l'appel de Toulouse à Gumshoe, avec un organigramme de un tel lié à un tel par la lettre, un tel lié à un tel par telle chose, est-ce que ça peut être intéressant pour la rédaction? Une sorte de
un schéma,
un organigramme, un...
comme un mind map.
Exactement. Ouais. Mmh. Parlons de cartes mentales. Mmh. C'est pas pour organiser, vous en pensez quoi?
J'ai déjà testé. Mmh.
Oui. J'allais dire oui, tu l'as déjà testé, parce que moi pas vraiment, mais...
J'ai déjà testé le truc, d'ailleurs je sais pas si je peux vous le montrer sur le mind, enfin le hangout. J'avais fait ça pour un scénario qui était justement un bac à sable, qui était super ouvert, où il y avait beaucoup de choses à gérer, et essentiellement des protagonistes. Les lieux n'étaient pas très très importants, c'était surtout les protagonistes et ce qu'ils savaient. Et je me suis essayé au mind map parce que je me suis rendu compte que dans le temps qui me restait, j'aurais vraiment du mal à rédiger quelque chose de concret.
D'accord.
Heureusement, il n'y a que moi qui ai eu besoin de le faire jouer. Là, c'est pas la version finale, mais attendez, je vais...
Alors, juste pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est pas forcément super courant, la carte mentale, finalement, c'est une organisation de la pensée. Ah, si, on voit, attends.
Je ne sais pas si vous voyez.
Qui est dessus, voilà.
Ouais, donc j'avais typiquement créé ce mind map. C'est une manière d'organiser ses pensées par thématique. C'est assez bordélique, mais finalement tout est bien organisé. Et donc c'était un scénario qui tournait autour d'un marché aux puces avec plusieurs protagonistes. Vous voyez, donc là j'ai classé.
C'est par association d'idées, ouais. Une idée découle d'autres et en découle d'autres et hop.
Ouais, ouais. C'était vraiment le début du projet, mais c'est vrai que pendant que je faisais jouer, c'était un outil génial. C'est-à-dire que j'avais juste une feuille A4 et je voyais au fur et à mesure la progression de mes joueurs. Je me disais, voilà, maintenant, ils se sont intéressés à la question de la vente. Qu'est-ce qu'on vend sur le marché? Ils posent des questions aux gens. Et ben, à la fois, on vend des objets qui sont dans les greniers, donc des vieilleries, mais à la fois des biens nouveaux qu'on n'a pas vus avant, en l'occurrence des saucisses. enfin bon, c'était un scénario au disque monde. Hein, donc
ah oui, d'accord.
C'est pas du tout. Et là, tu vois, sur de la couleur, on va dire, de la couleur dans le scénario, il y avait, j'avais prépensé un certain nombre de choses sympas qu'on pouvait voir et qui rajoutaient de la couleur, notamment des gens qui leur vendaient des rats d'amour, c'est comme des pommes d'amour, enfin voilà, et un certain nombre d'autres choses. Mais disons,
ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, on peut l'exporter, hein, parce qu'il faut pas voir, on n'est pas obligé d'avoir ce truc-là sous la main, on peut l'exporter
sur PDF ou quoi que ce soit.
L'imprimer et on peut même l'utiliser sur tablette, il y a des applications qui sont compatibles. Ouais. Moi, je m'en étais servi sur tablette, clairement.
On peut les voir online et tout ça, d'accord. Donc ça peut être aussi une bonne technique, j'irais, d'écriture de scénario. Et finalement, ce qu'on peut se dire au niveau des techniques, j'irais, de rédaction, c'est il faut essayer de rédiger ce que l'on considère chacun comme étant le nécessaire, quoi.
Oui.
Ouais. Je voulais juste faire un tout petit add-on par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les comment tu fais pour récupérer tes joueurs quand ils sont partis dans une autre direction. Il y a un truc que je trouve vraiment bien quand t'écris ton scénario, c'est la timeline. C'est prévoir des événements qui vont arriver, mais qui ne vont pas arriver aux joueurs, ou que, si tu veux, c'est pas des choses que les joueurs doivent faire ou vont faire automatiquement, mais c'est plutôt ce qui arrive à l'extérieur. Exemple type, un accident de la route, ou bien une panne de courant, ou bien quelqu'un qui leur téléphone. Et si tu veux, si tu prévois ta timeline de manière assez intelligente et dynamique, tu peux récupérer tes joueurs qui sont allés dans une direction complètement à côté, très naturellement, par la timeline. Et là, je prends un exemple pour un scénario du commerce. Les gens, je vais pas en dévoiler plus, mais c'est un moment où les joueurs peuvent explorer un endroit qui est assez vaste et s'y perdre, et se préparer à plein de choses, essayer de se barricader, interroger les gens qui habitent dans les lieux, et tout d'un coup, il y a une panne de courant. Et là vient un autre problème qui est, bon sang, il va falloir sortir de l'établissement pour s'intéresser à l'endroit où il y avait le groupe électrogène, tout le monde a pu discerner avant que ça venait de l'extérieur.
D'accord. Et là, tu les ramènes alors.
Tu les ramènes dedans. Et ça reste très naturel et très organique par rapport au reste du scénario.
Oui, c'est vrai que c'est une bonne
idée. Pensez à votre timeline, pensez à des événements qui sont pertinents et extérieurs aux joueurs. Et non pas, à ce moment-là, ils doivent être dans le musée pour que le reste continue.
Des choses qui arrivent même si les joueurs n'y sont pas et qui influencent le monde dans lequel ils se trouvent.
Ouais. Et qui sont pas grossiers, qui sont pas trop amenés, trop violents. Mmh. Du type, une pluie de dagues de cristal vous force à rejoindre l'auberge.
Pardon, donc, ok. T'as la liste. Mmh. Finalement, t'as tes passages un peu obligés, tes personnages et tout. Et puis, tu rajoutes à côté des petits points qui vont permettre de te faire rebondir et de rajouter un peu de fun et puis de se dire, parce que finalement, on s'aperçoit rapidement quand on rédige, c'est qu'on rédige, on a tendance, hein, justement, c'est le contraire, ce que tu dis, Steve, on a tendance à rédiger ce qui est intéressant. On va pas rédiger les trucs à côté qui feront pas. Mmh. Et c'est un peu, moi, les problèmes que j'avais en rédaction, c'est-à-dire de se dire, par exemple, s'il y a une scène qui doit se dérouler dans un restaurant, préparer une petite scène annexe. Préparer un client un peu bizarre, préparer un serveur un peu obséquieux, parce que le problème de la rédaction, on arrive très rapidement à finalement décrire uniquement les choses intéressantes et
on se concentrerait trop sur l'intrigue et on ne verrait pas le monde qui entoure pour le rendre un peu vivant, on peut l'étoffer.
Et le problème, c'est que les joueurs peuvent le sentir, ça, parce que si vous avez un support sur plein de choses et
là.
Je jette une feuille. Oh et alors là, vous rencontrez Josette la gardienne. Alors que si, au contraire, vous avez, comme disait Steve, vous avez des points de passage, des idées, dont on parlait tout à l'heure, des trucs que vous avez pris au dictaphone ou alors que vous avez mis sur Google Maps ou sur Google Doc et tout ça. Et puis finalement, de se dire, ah, tiens, ce truc-là, c'est nickel, je l'utilise maintenant. Ça va permettre de ramener un peu de vie et puis de pas trop de faire lecture et puis attendez, vous êtes passé au point A, vous êtes passé au point 5, vous n'êtes pas passé au point 4 D'accord, donc on organise comme ça, on a la possibilité de faire des cartes mentales pour ceux qui ont besoin en même temps on parlerait de schéma, mais les schémas c'est un peu les
cartes mentales aussi, ça
c'est un peu les cartes mentales. Et rapidement, on va s'apercevoir que la façon dont on rédige le scénar va en faire un type particulier. C'est là où on a le type un peu linéaire, et le type un peu notamment bac à sable, comme on citait tout à l'heure.
Narrativiste.
Et c'est vrai que...
Du tout.
Il y a un problème de caméra, sur ta caméra, Steve, je ne te vois plus. le truc, c'est de se dire, par exemple, avec ce que tu nous as montré sur ton bac à sable, Steve, ça fait très, enfin, sur ton, tu vois, je me trompe, mais sur ta carte mentale, finalement, ça fait très bac à sable. Parce que tu poses les joueurs au milieu, et après, à eux de voir, quoi. Donc, est-ce que, à votre avis, ça influe quand même le rédactionnel sur la façon dont va se dérouler le scénario, selon son type?
Oui, parce qu'à bac à sable, tu es obligé de préparer énormément de choses, de détailler énormément de lieux, de bien typer tes PNJ. Alors que
D'ailleurs, pour rentrer en concret, de ton côté, JP, un lieu pour toi, quand tu rédiges un scénario, c'est quoi? Les grandes lignes.
Une ambiance, une lumière, des craquements, des bruits, le temps qu'il fait.
D'accord.
Oui, ça peut donner...
Interne, genre une maison, une pièce, une chambre d'hôtel.
L'état de propreté des lieux, l'odeur.
Ça, c'est genre le truc que tu notes.
J'essaye, ouais. Ça peut donner beaucoup d'indices sur... permettre aux joueurs de s'immerger dans l'histoire, de sentir les choses autrement que par un simple jet de dés ou pas mal de descriptifs peut aider les joueurs à se mettre vraiment bien dans l'ambiance.
De ton côté, Steve, tu rédigerais des choses comme ça d'ambiance?
Sur les lieux, je m'attache plutôt aux personnages. Pour les lieux, je fonctionnerais plutôt par émotion que je veux communiquer. Du type rassurant. Chambre d'hôtel rassurante, c'est pas chambre d'hôtel inquiétante ou chambre d'hôtel burlesque. mais c'est un challenge.
N'allez pas dans la chambre 23.
et derrière, ben, je brode sur le moment. C'est vraiment de l'impro.
Donc tu, par exemple, un lieu, quand tu rédigerais un scénario, tu noterais juste le lieu, quoi.
Je note le lieu et le type d'émotion que je veux communiquer. Genre un village consanguin, tu vois. Et derrière, ça vient seul, hein, d'habitude.
En même temps, si c'est un village en bord de mer et qu'on joue à l'appel de Cthulhu, ouais, c'est attention.
C'est un peu trivial. Parce que moi, je dirais, ouais, je sais pas trop. Moi, je dirais que, enfin, je me base pas mal sur le plan. Si j'ai un plan à côté, j'ai tendance à.
Ça dépend un peu. Ça peut aider. Le plan d'une ville peut permettre aux joueurs de cliquer des petites épingles pour savoir où ils sont passés, noter des choses. Ça peut aider aussi.
Vous avez pas l'impression que ça vous enferme quand vous pensez votre scénario? Enfin, disons, non, quand vous le faites jouer plutôt.
Non, parce qu'il y a des trucs que je vais penser au moment où je pense au scénario et où je repenserai plus au moment où je suis dans l'action. J'ai tendance à beaucoup moins penser de choses. Mm-hmm. Par exemple, si j'ai besoin, tu vois, d'une pièce un peu glauque, je vais penser à un lambris qui va jusqu'à la moitié du mur, puis le papier qui se décolle un peu au-dessus. Un papier vertical avec des couleurs un peu délavées, avec des moulures au plafond aussi où ça se décolle et tout ça, où il y a peut-être, tu vois, je viens de penser, par exemple, il y a une fuite au plafond, il y a peut-être un truc
au-dessus.
Voilà, et ça je vais
noter. C'est des choses qu'il faut noter.
Je vais noter lambris, je vais noter papier peint moisi. Mmh. Pas forcément que je vais l'utiliser au moment, mais sur le coup, si je suis en train de relire le lieu, tu me dis ah ouais, c'est vrai, c'est la putain de chambre qui me faisait penser à ça et tout.
Vraiment, une description qui est vachement plus riche parce qu'elle s'appuie déjà sur ce que tu avais pensé à l'époque et sur ce que tu rajoutes sur le moment, alors hein, c'est ça.
Ouais, et puis en plus, le problème c'est que si les joueurs m'ont emmené dans une scène un peu d'action, c'est-à-dire qu'ils déboulent dans le couloir en courant, machin, vas-y, je te couvre et tout, vas-y, défonce la porte. Je serai à fond et je me rappellerai plus de ma chambre. Mm-hmm. Alors que si je me rappelle que ma chambre est glauque, aussitôt je vais les calmer. Je vais leur dire ok.
La dernière ça va calmer aussi.
Allez, bande de knackers, vous allez m'écouter maintenant.
Je te rappelle qu'en Angleterre, il y a un mec qui s'est fait arrêter parce que
il y avait un mortier
derrière lui.
C'est un soft gun. C'est un soft gun. Mm. Ne venez pas à la maison. Regardez, il y a des billes dedans.
Donc, le truc, c'est que moi, j'aurais tendance à marquer, c'est comme, je dirais, on peut continuer sur la rédaction avec les personnages, ça veut dire, mm-hmm. un personnage, il va être sympathique, antipathique, il va être conciliant, il va être affable, il va puer.
Des caractéristiques physiques qui le distinguent. Mm-hmm.
Mm-hmm. Voilà.
Et moi, j'aime bien aussi faire des tout petits textes de quelques lignes. Pour décrire que ce soit un lieu ou un personnage, ça permet. En tout cas, moi, ça m'aide à me remettre dans l'ambiance au moment où
je. C'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose que. Alors, parce que je pense qu'il y a deux optiques différentes qui se confrontent, c'est que toi, dans ta pensée, Steve, c'est plutôt le one shot, c'est-à-dire que tu penses le scénario et hop, tu vas le jouer. Alors que après, c'est un point de vue, mais. Ce que moi ou JP on utilise, c'est plus se dire voilà, j'ai préparé un lieu, je vais peut-être pas le jouer cette séance-là, mais dans la continuité de mon scénar, j'ai pensé qu'il soit comme ça, mm-hmm. et finalement je vais le noter parce que je sais que dans 3 semaines, si je fais la suite, j'y penserai plus, quoi.
Ouais, je pense que c'est ça. Je voulais poser une question, JP. Mm-hmm. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un qui a une mémoire qui passe par l'écrit? Je veux dire, est-ce que tu as besoin d'écrire des choses pour t'en souvenir?
Oui, moi j'aime bien écrire énormément.
Parce que je me posais la question, quand tu écris 2-3 lignes, tu sais, pour décrire un lieu ou une personne, pendant la partie, ça me semble être quand même assez difficile de relire tes 3-4 lignes Par exemple, quand les joueurs arrivent dans un endroit où il y a 5 PNJ, tu vois. Donc, finalement, est-ce que tu les relis vraiment ou est-ce que ça t'a aidé au moment où tu écrivais ton scénario à t'en souvenir pour la partie?
Ça m'a aidé au moment où j'écris le scénario, mais comme je prépare un peu le scénar avant de le jouer, je le relis, c'est parce que je l'ai écrit parfois quelques mois avant et bon, j'ai pas eu le temps de le faire jouer. Ben donc du coup, en relisant les quelques lignes, tout me revient et bon, comme je le fais jouer le lendemain ou le soir même, ça reste et donc.
Donc c'est plutôt pour toi avant la partie. Ces écrits sont importants avant la partie. Et oui, pas tant que ça pendant que tu joues, quand t'es à table avec tes joueurs. Quoi.
J'essaie quand même d'y jeter un œil, mais bon, parfois l'action fait que t'as pas le temps. Mmh. Mais bon, du coup, comme tu l'as quand même, je l'ai écrit une fois, je l'ai déjà pensé, je l'ai relu, c'est en tête. Quoi. Donc,
C'est pour ça que moi,
maintenant,
la liste de mots-clés, c'est important.
Oui, ça peut aider, c'est vrai. Ouais, maintenant, j'ai écrit aussi mes scénarios pour qu'ils soient joués par d'autres. Ouais, et donc ouais, je me dis avec des petits textes introductifs ou des petits passages un peu plus littéraires, on va dire, ça permet à quelqu'un d'autre de sentir un peu plus le feeling de la scène, du lieu.
Ça, je suis assez d'accord avec toi, JP, mais c'est un peu imparable parce que nous, dans ce qu'on dit là avec Steve, c'est vraiment d'utilisation pour nous-mêmes. Alors que toi, déjà, tu penses le scénario pour qu'il soit diffusé. Et l'idée que tu t'en fais, t'es obligé d'un peu de la transmettre et de la, ouais, tout à fait, et de la faire passer. Ouais, voilà. D'accord, donc on peut poser des idées sur les personnages, on a dit qu'on pouvait poser des idées sur les lieux, des petites idées à côté, on peut rédiger un peu plus pour,
des
pensées cruciales.
Des illustrations peuvent pas mal apporter à un scénario. Maintenant, il faut pouvoir trouver les bonnes illustrations ou savoir les faire soi-même. Ça, c'est,
il y a toujours eu, je sais pas pour vous, mais autour de moi, il y a toujours eu deux écoles par rapport aux illustrations. Les « Ah non, ça tue l'imaginaire » et les « Ah, moi j'en ai besoin ». Et bien sûr, il y a des écoles intermédiaires, mais comment vous positionnez-vous par rapport à ça?
Moi, je trouve que les illustrations posent l'ambiance. Ils peuvent vraiment aider à poser l'ambiance et à présenter.
Juste pour savoir, là, on parle d'illustration que tu vas montrer aux joueurs.
Oui, par exemple. Sur les fiches de perso, par exemple, j'aime bien trouver l'illustration du perso. Ça, tout de suite, la manière dont le personnage est dessiné, le style d'illustration, va tout de suite induire quelque chose chez le joueur. Je veux dire, tu présentes un personnage illustration type manga, ça va être autre chose que illustration sombre et bon.
D'accord. Voilà. Parce que, enfin, alors. Pour l'illustration,
Maintenant, la difficulté, c'est de trouver l'illustration qui va bien. Et c'est pas toujours simple non plus de la faire soi-même. Il faut qu'elle soit évocatrice.
Par contre, j'ai déjà utilisé le coup de l'illustration à la Sans-Détour, c'est-à-dire un peu le lieu avec une photo des années 20. C'est principalement pour, m'aider à préciser un contexte visuel qui est difficile à retranscrire. Par exemple, une rue de New York.
Une rue en 1920.
Dans les années 20, voilà. Autant,
si ta scène
est à New York, voilà. Si ton intro est à New York et tout, tu vas y arriver, tu vas commencer. Mais finalement, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie que les rues sont très larges, on oublie que c'est pas du bitume, que c'est de la merde sur le sol, qu'il y a beaucoup de gens à pied. Qu'il y a des gens avec des chevaux, qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup de fumée, je trouve qu'on oublie pas mal de choses et c'est vrai que pour lancer un aspect un peu particulier ou faire switcher une ambiance, l'illustration pour moi ça peut être utile. Enfin, c'est un peu délicat ça, tu prends plus de temps. Mais par exemple, pour moi en tant que gardien. Pour bien que je me représente une maison, il va falloir que j'ai une illustration. C'est-à-dire que si dans le scénario que je lis, j'ai l'illustration de la maison et j'ai un plan, là c'est bon.
Voilà.
C'est parti et je l'ai imprimé. Par contre, si j'ai vraiment pas d'illustration et tout ça,
ça risque d'être un peu plus chaud, c'est clair.
Parce que bon, voilà, on dit les styles victoriens avec des colonnes. Puis en plus, le problème, c'est que dans les descriptions, quand t'as pas d'illustration, il faut que tu utilises des mots qui soient utilisables dans la même acceptation par les joueurs que par toi.
Que par toi, oui.
Parce que par exemple, moi, si je pense à une maison coloniale, je suis pas sûr que vous deux vous pensiez à la même maison coloniale, quoi. Il y en a un qui va penser à un autant de n'importe le vent, l'autre qui va penser à Mississippi Burning. Moi, je pensais à autre chose.
Oui, tout à fait.
Donc, ça peut aider, moi, de
dans un cadre plus contemporain, style Delta Green. Les illustrations sont peut-être un peu moins utiles, oui. moins nécessaires, puisque bon, ben, c'est le monde dans lequel on vit, donc il y a moyen de s'y rattacher.
Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, tout à fait, pour, la, pour le rédactionnel, tu peux finalement te taxer sur d'autres, d'autres, finalement, d'autres sujets, parce qu'un motel qui connaît
qui n'a jamais vu un motel voilà. Dans une série télévisée ou quoi que ce soit, c'est clair.
Tu dis un motel au bord de la route où tu te gares en bas de ta fenêtre, devant ta porte, bon, bah, tout le monde s'est fait une petite idée. Mais c'est vrai que...
Donc pour revenir sur ce que Steve disait, moi je serais plutôt de l'école de dire, de l'école de ceux qui pensent que l'illustration aide à l'imagination et est un vrai support pour les joueurs et pour les maîtres de jeu.
Et ton côté, Steve, parce que tu as posé la question, mais toi aussi.
Oh merde.
Je vous rappelle qu'il est 23h30 et on a encore 3-4 lecteurs. On en a 7 au maximum.
Il est 34 hein, chez moi, mais c'est le décalage horaire.
Bah, c'est la Belgique. Excuse-moi, Steve, tu disais
Je disais, c'est, pour moi, c'est vraiment difficile de trancher sur cette question. J'ai même du mal à expliquer comment je fonctionne, mais je vais essayer de le faire maintenant. Alors, j'utilise les illustrations pour deux choses. Soit ben, pour emmener l'imaginaire de mes joueurs sur des choses qui n'ont pas d'importance spécifique pour le scénario. Exemple, ta rue new-yorkaise de tout à l'heure. Ça leur emmène immédiatement plein d'éléments de couleur. Ils voient le gars qui distribue les journaux, le cireur de chaussures, sans qu'on ait besoin de le décrire. Et ensuite, on peut encore en rajouter quand on parle, parce que la photographie qu'ils voient, c'est juste un petit moment, et ensuite, on les emmène vers la rue suivante. Donc, pour leur montrer des personnages, des lieux qui n'ont pas d'importance, mais qui ramènent une couleur, je vais peut-être leur montrer des illustrations. Mmh. Et après, pour le reste, je n'utilise pas d'illustrations, sauf lorsque je veux matérialiser de manière physique un élément important de l'enquête. Exemple, une enquête où on cherche le tueur parmi, enfin, une sorte d'Agatha Christie, où on cherche le tueur parmi 8 coupables, je vais avoir tendance à leur filer 8 portraits, pour qu'ils puissent vraiment les poser devant eux et se dire, ah, lui, c'est le connard, elle, c'est celle, la femme fatale, elle a un alibi, mais on sait jamais. Et je vais faire pareil pour les lieux aussi, dans une certaine mesure.
Parce là, que bon, j'ai envie. C'est les deux extrêmes, c'est-à-dire que soit t'as pas grand-chose et t'as pas envie de te faire chier, soit c'est vraiment utile.
Ouais. Et puis pour les illustrations, disons, qui sont pas très importantes, enfin qui décrivent des choses qui sont pas très importantes, je vais plutôt avoir tendance à les laisser négligemment sur la table. Pour que lorsque les joueurs, tu vois, m'écoutent ou n'écoutent pas ou font un truc, non, mais je les mets en début de partie, ben, de temps en temps, ils regardent sur la table, ils regardent l'écran, ils regardent les illustrations qui sont pas sur l'écran ou sur la table. Ben, tu vois, leur imagination commence à partir, ils sont vraiment dans l'ambiance.
D'accord. Donc ouais, donc les illustrations, ça peut tout à fait servir.
Ouais, ça peut aider pendant la partie, mais aussi pendant l'écriture, hein, parce qu'on était en train de parler de la rédaction et pas de la.
Ouais, t'as bien raison.
Et puis en plus, alors c'est ce qu'on s'est dit, c'est que c'est ce que tu soulignais aussi, JP, et puis que t'avais mis dans les choses à discuter, c'est que finalement la rédaction, faut pas se dire j'ai l'idée, j'ai le système, c'est parti, je me pose devant mon truc et dans une heure j'ai fini.
Non, c'est une galère, hein. Bah, ça dépend. Parfois, t'as l'inspiration et ça vient d'un coup et en quelques jours, t'as pondu ton truc et puis.
Ouais, mais tu reviendras dessus. En plus, je pense qu'à chaud, si vraiment t'écris tout à chaud, à mon avis, ça va être super linéaire, quoi. Alors que si tu reviens dessus, justement, à mon avis, tu vas redécouper, tu vas dire,
tu rajoutes des branches, tu rajoutes des péripéties que tu peux mettre à différents endroits. Oui, c'est clair.
Ouais. Donc toi, en plus, JP, toi, dans le but de diffuser...
J'essaie de soigner aussi la présentation, alors, dans ce cas-là. Et voilà, sans transition. Et alors là, je suis parti pour des heures à chipoter, à trouver la bonne police qui va bien donner sur le document. Les fiches de perso, tu n'imagines pas le temps que je mets pour faire une fiche de perso qui me convienne. Mais même ça, ça peut donner un ton à... Enfin, moi, je trouve en tout cas la bonne police de caractère, la bonne présentation, ça donne tout de suite le ton du scénario ou du jeu que tu veux.
Un truc tout bête, une fiche de perso. Pour le verso, je leur mettais des lignes, toutes bêtes. Mmh. Et pour la campagne, j'avais mis un dirigeable en haut à droite, comme petite icône. Aussitôt, ils ont su que c'était du pulp.
Ah bah oui,
ils ont fait des trucs, ils ont fait. Ok.
Un chapeau avec un
mec. Ton passeport, on va voyager, mec. Là, moi, j'étais là. Ah merde, putain, c'est vrai. C'est pas con. Mais c'est vrai que la feuille de perso, l'enrobage, enfin, quand tu vois que ces couillons là qui filent de la thune à Quickstarter, c'est juste sur une présentation, tu te dis que la présentation c'est vital.
Ouais, moi je trouve.
T'as des gars qui sont en train de se toucher sur Ark Long Toulou parce qu'ils ont vu 3 illustrations. Alors, on est tous comme ça, hein, c'est bête à dire. Hein. Mais par exemple, enfin, sans vouloir te jeter des fleurs, c'est vrai que c'est souvent super bien présenté tes trucs JP. Je sais pas si t'en as regardé toi, Steve, de ton côté.
Les scénarios de JP? Pas récemment.
Mais il va nous avouer qu'il les a jamais joués.
Je suis en live. JP, au fait, c'est le mec avec qui on parle. Mais non, parce que c'est vrai que la mise en page et la façon, surtout la façon de rédiger, que ce soit pas sur forcément sur une seule page, sur une grosse ligne et tout, parce que je dirais que le mieux, c'est d'être proche de la façon dont moi je vais exploiter le scénario. C'est-à-dire que si déjà la personne qui rédige, elle a mis des points en disant lui, voilà les 4 traits caractéristiques qu'il décrive, ben c'est bon, pour moi, pour utiliser, j'ai pas besoin de refaire une fiche. Je l'ai sous la main, j'ai le portrait à côté, pouf pouf.
Quoi. Voilà.
Et par exemple, c'est pour ça que moi, les trucs de sans détour, c'est inexploitable en partie pour moi, parce que le portrait de Robert, il est à la page 15 dans la troisième colonne, et puis le portrait du deuxième, il est de l'autre côté. Donc il faut absolument que j'arrive à éclater tout ça. Donc je dirais que c'est bon, après ça dépend comment tu rédiges le scénario, mais souvent moi les scénarios du commerce ne sont pas rédigés de la façon dans laquelle je les joue, quoi. Il faut que je rédige, il faut que je refasse des fiches, il faut que j'extrais un peu. Et ceux vraiment que je peux jouer le plus facilement, c'est quand même ceux de TOC, où la plupart des gens ont tendance à avoir rédigé comme on est en train de parler, c'est-à-dire par points, par séquencement, ouais. Par PNJ.
Les PNJ à la fin.
Voilà, exactement.
En annexe, on va dire. Les
PNJ, voilà.
C'est tout bête, hein, mais ouais. Ça peut aider.
Donc,
on n'a pas parlé de la musique aussi pendant la rédaction. Ça m'est arrivé aussi d'écrire en musique, et ça peut influencer grandement le...
Alors, on avait dit, est-ce que ça relie l'idée qu'on avait au début de ce podcast de dire que ça peut être la musique qui va tenir le scénario, ou là, non, c'est juste pour la rédaction?
C'est les deux, hein. Parce que moi, ça me donne des idées, ou ça me rappelle, si c'est une BO d'un film, ça va me rappeler le film ou la série que j'ai vu. Et puis, parfois, bon, il y a un gars, là, j'avais fait ça, un petit billet sur ce qu'il avait écrit. C'était un recueil de musique sombre pour jeux sombres, un truc comme ça.
Oh, Thomas Munier.
Voilà.
Oh non, Steve, vous en avez déjà parlé, les mecs. Oh, non.
je me suis amusé à essayer de retrouver les musiques dont il parle. Il y en a quand même qui sont franchement pas mal. Une
espèce de gothique émo, là, tout zarbi. Non, les...
Mais non.
On peut pas se foutre ce genre de théorie subversive.
Non mais il a quand même trouvé quelques petites perles musicales. Faut avouer. Ouais, tout n'est pas excellent, mais j'ai trouvé des trucs que je connaissais pas qui étaient vraiment pas mal.
Et puis c'est vrai que si la musique est pas mal, genre lancinante avec un sorte de leitmotiv et tout, à force de l'écouter, au bout d'un moment, elle va te taper sur le système et ça va peut-être influencer ta façon d'écrire le scénario.
Tu vas devenir.
Alors lui, il est glauque, puis là, vous devenez, tu fais, non,
tu deviens glauque.
Tu recommences. Allez, il est bien glauque là. Et puis au bout de 2 heures, c'est bon, tu pètes un câble, c'est un psychopathe.
D'accord. Donc non, par contre, jouer en musique, c'est clair que ça peut aider aussi. Ça, je l'ai déjà fait.
C'est obligatoire.
Mais bon. Je dirais pas que c'est obligatoire, mais. Ça pose aussi. D'accord.
Steve, de ton côté, est-ce que tu rédigeras en musique ou pas?
Écoute, je suis intarissable sur le sujet, je veux pas te rajouter 10 heures de podcast. Très souvent. Non, attends, précisons, moi c'est plutôt à l'origine, c'est-à-dire au moment où je prends mon inspiration, j'écoute beaucoup de musique, et ensuite quand je rédige, j'en ai plus forcément besoin. J'aime bien, j'apprécie, mais... C'est vraiment au moment où je commence à penser le truc.
C'est quoi, c'est quand tu commences à poser les quelques mots, les trucs comme ça?
Non, bah en général, je suis soit dans ma voiture, soit dans un endroit incongru, genre mon lit, et j'écoute de la musique, et je laisse mon esprit divaguer, et souvent j'ai des concepts, des personnages, des scènes, des choses que j'ai envie de mettre dedans. Et Voilà, je couche 2-3 mots sur le papier. Mais la rédaction vient ensuite.
Une question, Steve. Si tu penses à un scénario juste avant de te coucher parce que tu écoutes de la musique, est-ce que tu vas commencer à rédiger le scénario le soir même, tu te lèves et tu vas poser des choses, ou est-ce que tu te dis je vais laisser la nuit faire son ouvrage?
Ah non, c'est indispensable de noter 2-3 mots. J'ai toujours une petite feuille à côté de moi. Mais c'est vraiment juste 3-4 mots, genre vieux poissonnier, ce genre de truc.
La liste des courses. Le mec qui écoute de la musique avant de se coucher et qui pense à vieux poissonnier.
Et le vieux poissonnier qui habite au-dessus de l'entrée, celui qui vous arrête lorsque vous voulez rentrer en vous disant « Qu'est-ce que vous faites par ici ?»
D'accord, donc on pose. Ok. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour de la rédaction. Parce qu'on avait en voyant qu'il n'y a pas de méthode, il faut vraiment adapter à ce qui vous semble le plus facile à utiliser pour vous, la carte mentale, le rédactionnel, comme disait JP, avec les parties les plus importantes, un peu plus rédigées, puis un peu moins détaillées, mais point par point, et puis dans le but de diffuser ou pas. On a parlé de la musique, de l'ambiance dans laquelle on se mettait. Donc maintenant, on a fini. On pense qu'on a rédigé à peu près le scénario. Donc attention, hein, ce qu'on vous a dit, c'est que là, ce qu'on vous a donné comme exemple, finalement, c'est pour bien rédiger un scénario qui n'est pas censé être linéaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le « ils font ça, ils font ça, ils font ça, 12h15, ils font ça », à moins que ce soit le but du scénario, ce soit un décompte. Mais donc, on a un scénario construit de façon un peu magmatique, avec des pistes qui se rejoignent, on sait que tel indice va mener à tel endroit, et que finalement, pour passer dans l'endroit, ils pourront y arriver par telle chose, telle chose, telle chose, et on les amènera au bout, tant bien que mal, ou à une autre extrémité, enfin à un bout de l'arbre de la carte mentale. Donc maintenant, on considère qu'on a à peu près fini, mais on pourrait se dire, je ne saurais si j'ai fini que si j'ai testé le scénario. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais écrit de scénario. Est-ce que toi, JP, de ton côté, ça t'arrive de tester les scénarios avant de les diffuser au monde entier?
Je l'ai fait jouer avec mes joueurs. C'est tout.
Le test.
Ouais. Ouais. C'est le test. Hein.
Alors, l'épreuve du feu.
L'épreuve du feu.
Tu le fais aussi, ouais. Enfin, finalement, tu...
Il y a certaines campagnes que j'avais écrites que j'ai fait jouer 2 fois ou 3 fois. Mais...
D'accord. Alors, par contre... C'est une question qui n'est pas forcément liée à l'écriture des scénarios, mais qui peut quand même... Un truc que je fais, moi, c'est que j'attends le retour de mes joueurs. C'est-à-dire que vraiment, je vais leur poser la question en disant « Qu'est-ce qui a marché ? Quel est le personnage qui a bien marché ? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ?»
Alors, moi, ils n'osent pas me le dire. Ils ont peur.
Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça
non, généralement...
Et ça peut se faire que dans un cadre un peu particulier.
Bah, un débriefing après partie, ça peut être pas mal.
Tu le fais ou pas?
Bon, c'est parfois un peu informel, hein. On discute toujours un peu après la partie, mais c'est pas systématique, hein. C'est pas systématique.
Tu discutes de ce qui a marché ou pas, ou?
Disons que les joueurs reparlent après la partie. Allez, on prend un verre après, on discute un peu. Et donc là, il y a des choses qui remontent. Ah, ça, j'ai bien aimé ce côté-là, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc là, on peut sentir si le scénario a bien plu au joueur ou pas. Maintenant, en cours de partie, tu vois tout de suite si ça plaît ou pas. Hein, donc.
D'accord. Ouais. Toi, Steve, de ton côté, quand tu fais jouer, tu prends des retours?
Ouais, d'habitude, c'est assez rare parce que c'est une étape. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà senti vous-même, mais c'est presque un moment un peu intime, parce que quelque part on est en train de demander aux gens ce qu'ils ont pensé de votre monde, de votre construction, et moi j'ai toujours l'impression un peu d'une mise à nu.
D'accord.
C'est pas toujours
le même. Tu le fais pas ou tu le fais plus tard?
Je le fais, mais seulement avec des joueurs réguliers, et en l'occurrence là sur mon projet de campagne, on le fait systématiquement parce que c'est un peu un playtest. Et on a mis le petit rituel, donc à la fin de chaque séance, on fait un petit débrief sur les choses qui ont plu, les choses qui n'ont pas plu, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, qu'est-ce qu'ils auraient souhaité, etc.
Donc moi, le débriefing est beaucoup plus informel, hein. C'est beaucoup discussion libre comme ça sur ce qu'on a joué et puis c'est tout, quoi.
D'accord. Ouais, tout à fait. Alors, le truc qu'on s'était dit aussi dans la préparation, c'est que quand j'ai fini, le problème, comme dans tout scénario de Cthulhu, c'est qu'il va falloir que je jauge un peu combien de temps ça va durer. Et parce que souvent, on l'a pas dit, mais souvent le ce qui peut être difficile, c'est d'avoir les idées, mais très souvent aussi, c'est d'avoir trop d'idées. Parce que souvent, en plus, quand c'est les premiers scénarios, on se dit « Ah ouais, il me faut un méchant nazi, il me faut un méchant asiatique comme dans Fu Manchu, il me faut un plan machiavélique, il me faut un retournement de situation, il me faut quelqu'un que dont je prenne le contrôle. » Voilà, donc là, c'est le bordel, votre scénario, il tiendra pas, et puis ça sera un pur merdier. Donc, il va falloir faire le tri, et de se dire que finalement... est-ce que je me fixe une durée pour être sûr de rentrer dedans, de se dire, bah voilà, ça va me prendre 3 séances de 4 heures parce que j'ai 3 grosses parties, ou que approximativement ça va faire ce temps-là. Est-ce que vous êtes capable, je dirais, de jauger à ce moment-là et de vous dire, j'ai fini mon scénario, il devrait durer tant de temps?
C'est pas facile, hein. J'essaie toujours de caler un scénario sur une séance de 3-4 heures. Et si, c'est une campagne, chaque épisode durera une séance, c'est plus simple à gérer, parce que comme on ne joue qu'une fois tous les mois, une fois tous les mois et demi, le temps passe, les joueurs oublient pas mal de détails, et donc soit je fais des one-shots, soit...
3-4 heures, c'est pas très long. Hein.
Bon, on commence généralement à jouer vers 21h, on termine vers 1h du matin, 2h du matin.
D'accord. Et t'as le temps de faire de l'enquête, de l'action, de l'horreur et tout ça?
Bah, ça dépend du scénario, mais oui, il y a moyen. Si les joueurs s'y tiennent, de toute façon, ils sont là pour jouer, donc on fait un petit peu de, on déconne un peu au début, puis l'ambiance se met et c'est parti. Hein.
Par contre, ils ont tendance à savoir que quand vous commencez à jouer, c'est sur une séance.
Bah, disons que si le scénario est bon, ils vont être poussés à essayer d'aller jusqu'au bout. Et donc, on avance jusqu'à. Même si on doit faire un peu le forcing, mais j'aime pas trop couper un scénario en morceaux ou une intrigue en morceaux. Surtout à l'appel de Cthulhu, hein, si tu perds le fil conducteur de l'intrigue, c'est un peu difficile après, parfois après un mois et demi de reprendre.
Ouais. Steve, de ton côté?
Super dur de gérer et d'estimer le temps que va prendre ce qu'on écrit, enfin, en tout cas pour moi. En campagne, ça se pose moins comme problème parce que j'écris, et en fait, j'ai juste besoin de gérer le bon moment pour arrêter. Et ça, on le capte à la volée, hein. C'est-à-dire bon, là, ils ont rencontré le mec déguisé en Père Noël. Juste après, on va jouer la séance où le pickpocket leur arrache l'objet maudit, et on arrête là sur le climax. Bon, là, ça va. Et par contre, le véritable problème est là. Appel à l'aide aux gens qui nous écoutent aussi. Hein. C'est pour les conventions, on a un format qui est imposé, souvent en heure, on nous dit voilà, écrivez une partie pour 2h30, pour 5h, pour 6h. Les conventions pour lesquelles moi j'écris sont plutôt cool en termes de temps, mais pour moi c'est toujours très très difficile de savoir combien de temps va durer ma partie. Et même en playtest, quand je le fais, c'est super variable. Il m'est arrivé un jour de faire jouer un scénario à deux groupes, ça allait de 3 heures à plus de 6 heures. Mmh. Donc, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, donc l'intérêt de mettre des parties sacrifiables et de le dire dans le scénario, et peut-être aussi derrière d'inciter les gens à faire leur propre playtest et à lire le scénario avant de le faire jouer, je pense.
C'est ce qu'il faut se dire, c'est que une partie vachement intéressante qu'au moment où vous l'avez écrite, si vous la jouez pas pendant le scénario, ça veut pas dire qu'elle est morte. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit le système des boîtes à idées ou des petites idées qu'on met à côté. Finalement, hop, vous l'avez pas utilisé ce coup-ci.
Ouais,
vous en servirez. Et ça paraît simple, mais pour avoir commencé à rédiger des choses, c'était pas facile de se dire ça, je l'utiliserai pas dans cette partie-là ou dans cette campagne-là. Je le réutiliserai plus tard parce que on a envie et on pense au truc, on se dit ah, c'est pour que je l'utilise maintenant. Sinon, et finalement, non, c'est il faut vraiment réussir à faire le tri et c'est pas facile. Après, c'est pas. De toute façon, c'est impossible de jauger une partie de Cthulhu. Je dirais que ce qui peut vous aider, c'est le nombre de lieux et l'importance des lieux. J'ai remarqué ça. Oui, car j'ai une théorie sur un scénario, par exemple, basé, je sais pas, sur une vente aux enchères, qui va se passer sur le lieu de la vente aux enchères et dans un autre lieu et qui va se finir au cimetière. Pour moi, ça peut tenir en 6 heures. 2 heures par lieu. la vente aux enchères, il y a pas mal de choses que vous allez dire vous-même. Et puis après, s'ils se cassent vite, ils vont vite arriver sur le deuxième lieu. Et puis une scène de fin de 2 heures, ça peut être bon. Donc finalement, ça marche pas à tous les coups, mais ça donne un gabarit. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire jouer un scénar qui est axé sur un lieu, mais qui est vraiment axé que sur ce lieu-là. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Parce que même si on sépare par étage, 2 heures par étage, mais en même temps, ça peut le faire. Parce que c'est vrai que là, je suis à peu près 2 heures par étage. Donc j'ai 2 heures encore à jouer et ils vont finir en extérieur, donc ça va faire 4 heures, donc une séance normalement. Pour moi, c'est l'unité de lieu qui sert pas mal. Parce que finalement, je sais quand ils auront fait le tour. Et 2 heures pour un lieu. Alors après, si c'est un restaurant où ils vont passer des plombs parce qu'il y a un repas et tout ça, ça peut prendre plus de temps. Mais 2-3 heures pour un lieu, je pense que ça peut être une bonne idée pour se donner un gabarit grosse maille, quoi.
Maintenant, ça dépend des joueurs aussi, parce que j'ai déjà vu des joueurs qui traînaient, qui discutaient entre eux au même endroit, qui n'avançaient pas dans l'intrigue, qui faisaient du gaming entre eux.
Ouais.
Ça peut parfois discuter pas mal et ouais, voilà.
Discrètement, tu montes ta montre.
Il est temps de passer à la scène suivante, les mecs.
Ouais, c'est ça.
Tu peux te servir de la musique. Ça peut arriver.
Tu peux te servir.
Alors, difficile, hein. On peut dire
que le timing, c'est très compliqué.
Ouais, c'est chaud.
Et puis, même si on l'a testé, même si on sait combien de temps ça va prendre. Il y a une angoisse à la fin de la rédaction, ou même au début de la rédaction, c'est est-ce que ça va prendre? Est-ce que mon scénario va être bien? Par exemple, moi je sais que mes scénarios ils sont pourris parce que c'est cousu de fil blanc. Il faut connaître ses limites.
Tout le monde ne peut pas être narrativiste, mon cher Von.
Donc, parce que le principe, et c'est ce que je reproche à beaucoup de scénarios du commerce ou qu'on nous file, plus qu'on nous file que du commerce, c'est là où tout le monde n'est pas scénariste, c'est que souvent la rédaction d'un scénario, c'est soit il y a 2 choix pourris, soit c'est une partie que vous avez jouée et que vous retranscrivez en scénar, et là, c'est moisi.
Ouais. Le gars d'avant.
Parce que c'est sûr que vous allez décrire un par un les trucs qui ont fait vos joueurs et. Ce qu'on fait aux joueurs,
ça n'arrivera plus.
On s'en bat les couilles, voilà.
Voilà.
Ou alors, soit vous voulez vous faire plaisir. Moi, c'est ce que j'avais commencé à rédiger pour une campagne. Et la campagne, c'était clairement pour me faire plaisir, parce que j'avais eu un bouquin et tout. Et j'avais envie de retranscrire uniquement cette ambiance-là pour moi. Et finalement, c'est la même chose, c'est que pour vous, c'est du déroulé pesé, là. Oh, voilà. Oui, ils iront là, et non. Non.
Et ils jouent absolument pas ce que t'as prévu, et ça part. Ouais.
Et voilà, donc. Ben pour vous, tiens, vous tous les deux, qu'est-ce qui vous fait penser que ça va prendre votre scénario, Steve? Pour finir, c'est des questions difficiles.
Alors, je pense que ce qui prend toujours dans le fond, c'est l'intrigue, c'est ce que les Américains appellent le plot, c'est-à-dire ce qui sous-tend toute l'intrigue derrière. Ah. Et
ouais, ça va, il est presque minuit, c'est bon, hein. Il n'y a plus d'enfants devant.
Donc, finalement, tu boucles avec le début du podcast. Du podcast, Steve. Finalement, c'est l'idée.
Ouais, l'idée.
Si t'as pas une bonne intrigue, c'est foutu, c'est clair.
T'as beau mettre de la couleur, des scènes super, des personnages géniaux, si ton intrigue, qui peut d'ailleurs être juste bourdée par le jeu des personnages entre eux, mais si ton intrigue ne tient pas la route, c'est pas bon. Et moi, j'ai une solution que je m'applique et qui fonctionne pour l'instant. Elle vaut ce qu'elle vaut. Le meilleur pari que je tiens quand j'écris quelque chose, c'est de faire un scénario où les éléments sont en équilibre précaire. C'est-à-dire que tout repose l'un sur l'autre, à peu près en équilibre, mais dès que les joueurs vont rentrer dans le jeu, ils vont déstabiliser quelque chose, ne serait-ce qu'en parlant avec quelqu'un ou en ouvrant un coffre, et ensuite, ce déséquilibre va se répercuter partout autour d'eux. Et en général, quand j'ai cette structure de scénario, ça prend systématiquement, parce que j'ai plus besoin vraiment de relancer la machine, de penser à des trucs nouveaux, etc. Parce que un effet emmène une conséquence qui ramène un autre effet, et ensuite les joueurs sont entraînés dans quelque chose.
Ouais, il faut intéresser les joueurs, quoi.
Ouais, si tu veux, c'est un peu une structure de partie refuge que j'adopte pour que ça prenne, parce que les autres, c'est aléatoire. Quand j'adopte pas cette structure de...
C'est-à-dire que, par exemple, si l'enquête les amène dans un hôtel, le fait de rencontrer la gardienne et de ce qu'elle va leur dire, ça peut foutre ta partie en péril, quoi.
Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'autour des joueurs, tout commence à bouger, et si tu vois, c'est comme une machine infernale. Tout est en équilibre et n'attend qu'un tout petit déclencheur qui est... le premier acte normal des joueurs. Par exemple, en discutant avec la gardienne de l'immeuble, la gardienne de l'immeuble va leur dire « Si, monsieur, c'est terrible, allez tout de suite au premier étage, j'ai entendu du cri, et madame Machem... »
C'est moche, Steve, voilà. de prendre un accent pour la gardienne.
Très bien. Et juste ensuite, quand les joueurs seront partis, elle va se retourner et dire froidement au mec qui est caché sous le bureau « Ah, je crois qu'ils sont tous copés, et maintenant, nous savons aussi qui ils sont, il conviendra de s'intéresser à leur immatriculation de véhicule. » Et voilà, l'intrigue commence, tu vois.
Quand tu dis mettre en péril, c'est vraiment mettre en péril, c'est-à-dire que leur donner en main un élément, je dirais, assez vital, quoi, quelque chose qui, d'accord, un twist.
Il faut que leur arrivée dans le scénario déstabilise
la merde.
L'ordre établi. Voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, en général, tout s'enchaîne naturellement, organiquement. Et chez moi, c'est toujours pris. J'ai tendance à me réfugier là-dedans quand je veux être sûr qu'une partie fonctionne.
Et ça, c'est quelque chose que t'auras rédigé avant ou pas?
Oui,
de choses pour arriver à faire ça, non?
Ouais. Mais encore une fois, c'est essentiellement au niveau des motivations des PNJ que se situe le ressort.
Ah oui, tu mettras gardienne de point salope allemande, quoi.
Exact. Connaît Yuri et va enquêter sur les joueurs dès qu'ils lui auront parlé. Voilà.
C'est-à-dire que toi, au lieu de te dire le but, c'est de trouver quelque chose dans l'appartement, tu vas te dire... les différents vecteurs qui vont les faire arriver à cet appartement, ça peut être complètement des trucs qui vont les faire entrer en scénar aussitôt, quoi. C'est-à-dire le conducteur de taxi qui les y emmène, la gardienne, le vendeur de journaux en bas, d'accord. C'est intéressant, ça.
Tout est en équilibre précaire, et ce qui fait que dès qu'ils commencent un petit peu à chercher, il y a des éléments qui ne vont pas déstabiliser, mais la plupart des interlocuteurs autour d'eux, rien que le fait de leur parler,
t'as des engrenages derrière qui vont se mettre en branle et la mécanique va se mettre en route.
Et un tel va aller voir un autre et le supprimer pendant que les joueurs sont en train de farfouiller en cimetière. Enfin, tu vois, c'est.
Bah, en fait, on reprend tout ce qu'on a dit dans le podcast précédemment. La timeline qui se déroule et qui est influencée par les actions des joueurs.
Là où il y a des plus, c'est de ne pas rester finalement dans le standard. De ce qui finalement l'indice est caché à un endroit et je sais par où j'y arrive, c'est que finalement j'ai plein d'autres façons d'y arriver et que finalement le fait de placer les joueurs dans le périmètre de cet indice, il va se déclencher quelque chose, quoi.
Ouais.
Ah, d'accord.
C'est un gros jeu de gravité, tu vois.
J'aime bien l'idée du truc qui se déstabilise au fur et à mesure, c'est pas mal. Je prends des notes.
En plus, ça fait des scénarios qui sont rapidement, je dirais, dynamiques, quoi.
Ouais,
c'est clair.
Un peu, tu vois, à la Snatch. Vous avez vu tous les deux le film Snatch. Vous voyez que, en fait, c'est ça. Tous les gars mettent le pied dans le plat et font des effets en chaîne autour d'eux sans s'y attendre.
C'est un peu le principe de tous ces films-là, comme Crime, Arnaque et Botanique. C'est tu fais une petite connerie et finalement, c'est l'effet papillon, mais dans ta face. C'est intéressant. Et finalement, on est sur des petites parties. Et puis en plus, quand Grenig, je crois, nous demandait finalement, ou non, Humble Omniscient, nous demandait les sujets à éviter et tout ça, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à éviter, mais il suffit de court-circuiter, de se dire, finalement, le méchant, c'est pas le directeur du restaurant asiatique, qui aura vraiment la gueule du méchant, ça sera le petit vendeur de NEM dans la rue, qui dira, une fois qu'ils sont barrés, bande d'enculés d'occidentaux et tout, je vais pas niquer la gueule. Ouais, d'accord.
Rebondissez vraiment sur ce que font vos joueurs. Même si vous ne l'avez pas prévu.
Ouais, c'est cool ça. Bon. Je crois qu'on a fait un peu le tour du. J'ai fini. Si on prend le dernier, comment fait-on une bonne accroche pour intéresser les PJ à l'enquête de Humble et Omniscient dans les forums, ça va nous amener vers une petite phase du podcast, parce que là quand même on vous a bien lâché de l'info pendant ça ferait bientôt 2 heures. On s'était dit que pour vous faire plaisir, on allait se faire un petit lâcher comme on dit, genre un petit lâcher d'idées. Parce que on galère toujours pour le lancement des scénarios. Et là, il y a JP qui est en train de
compter. Je cherche mes notes.
Et donc, on s'était dit qu'on allait vous filer un peu comme ça, comme
une
forme tardive, et après avoir un peu réfléchi à des petites idées de lancement originaux. Mmh. Donc pour que ce soit le bordel et pour que tout le monde ait quelque chose à dire, on va tourner au fur et à mesure. Donc parce que je suis un mec sympa et que Steve et que JP est en train de regarder dans ses notes.
Oui, j'essaie de retrouver mes notes mais je les retrouve pas.
Steve qui est narrativiste va commencer. Une idée et juste une petite phrase rapide pour dire comment tu l'exploiterais. Mmh. Bah, tu peux cliquer dans ce qui a été noté, hein, pas de soucis.
Mais je sais pas où c'est. Je ne sais plus. Bon, ouais,
c'est là. On va... Regarde ici, là. Ici, tu vois ? Renouveler le style.
C'est merveilleux. C'est merveilleux. Disons, juste à titre d'intro, je pense que si tu veux faire une bonne accroche, il faut vraiment ravir les joueurs. Il faut les emmener, il faut les arracher, les emmener dans ton monde ou dans ton intrigue. Alors, je dirais, les placer dans une situation où il faut réagir immédiatement, très rapidement, du type un des personnages a son arme pointée sur la tête d'un PNJ et autre PNJ lui intime vas-y tire, voilà, et immédiat reste quoi, c'est
immédiat reste, ça marche bien, ça peut marcher.
Ok, à mon tour. Moi, qu'est-ce que je dirais un enterrement. On commence. Toi, JP, qui aime bien préparer un truc écrit, tu prépares un bon vieux laïus. Et oui, c'est en ce jour que. Et alors bon, on peut déconner, genre c'est un DPJ qui se fait enterrer. On va rester dans le standard. On commence un enterrement. Qui est-ce ? On ne sait pas. Est-ce qu'il lui est réellement arrivé quelque chose ? On ne sait pas trop. Mm-hmm. Enfin, le prêtre laisse des sous-entendus. À toi, JP. Notre idée.
Moi, j'avais pensé à un texte qui décrit les derniers instants d'un personnage, son désespoir, tu vois. Et puis il se suicide. Et puis tu distribues les fiches pré-tirées, parce que là, dans ce cas-là, il faudrait prévoir des fiches pré-tirées. Et un des joueuses s'aperçoit que le personnage dont on vient de décrire la mort, c'est un des personnages joueurs. Et puis là, c'est parti. C'est marrant aussi ça. Pas bon, évidemment, ça c'est.
Moi j'aime bien la thématique de la vie domestique qui bascule. Je sais plus si c'est moi qui l'avais écrit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Une personne vit une scène parfaitement banale, voire même un peu ennuyeuse, type il rentre des courses, ou bien il embrasse sa femme, et il va se coucher, et tout d'un coup, quelque chose bascule. Un truc, mais vraiment. Totalement inexplicable, du type j'avais fait ça une fois dans un scénario, tu vas te coucher et tout à coup tu commences à entendre un chat qui miaule dehors, des chats qui se battent, et ça devient rapidement insupportable. Le joueur sort, il arrive à l'extérieur et il s'aperçoit qu'il y a un gramophone à l'extérieur planqué dans les buissons avec des bruits de chats qui sont en train de se battre, qui tournent en boucle, et tu le laisses là-dessus.
Wow. Allez, hop, et là c'est pourquoi.
Pour moi, j'ai une bonne idée qui marche pas mal. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est basé sur Star Wars. C'est le pendant ce temps à Veracruz, c'est de sortir les joueurs et de leur faire de commencer par une scène où ils ne sont pas du tout acteurs, qu'ils ne voient même pas. C'était un très très bon de début de scénar de Archeos, je crois. Voilà, vous décrivez, là dans le scénario d'Archeos, c'était un sacrifice dans la jungle, avec, en réalité, on a joué le rôle d'un oiseau de proie qui se rapproche en cercle du sacrifice, et là, le scénar commence quand le couteau en obsidienne rentre dans le cœur de la jeune donzelle à la poitrine opulente. Et là, vos joueurs sont dans un bar à Soho.
C'est pas mal.
JP.
Pendant ce temps sur l'étoile noire. Oui, c'est bien. tu en avais un peu parlé tout à l'heure, hein, le réveil cryogénique dans une salle où les alarmes bug là, sont stridents, l'ordinateur du bord a réveillé l'équipage avant la date prévue. Et là, il faut découvrir ce qui s'est passé. Mais bon, ça c'est une très classique Alien. Ça.
Une question pour ça, tu réveilles tout le monde d'un coup ou t'en réveilles un?
J'avais pensé plutôt il y a un membre de l'équipage qui s'est réveillé avant les autres.
Ça peut partir en
mais pas, mais pas nécessairement un DPJ, forcément.
Si tu files entre les mains d'un des personnages la possibilité de réveiller les autres ou pas, là c'est très très bon.
c'est vrai.
À toi Steve, une autre idée?
Ouais, elle vient d'un scénario du commerce, vous le reconnaîtrez peut-être. Les joueurs sont invités à une réception. Quand tout d'un coup le maître des lieux convoque tous les invités pour un discours qui est très très court et qui leur dit j'aime beaucoup les jeux, nous allons faire une partie de cache-cache 1, 2, 3, 4 et comme ça jusqu'à 10 et avec les lumières qui s'éteignent et tout de suite nos vieux réflexes d'enfant reprennent le dessus et la peur instinctive de se faire découvrir.
C'est bon ça. Une idée, alors c'est un peu tiré d'un scénar mais même chose, je vous le dirai pas, c'est le truc qui n'est pas censé marcher qui a marché. Par exemple, pour un truc actuel genre je sais pas, un truc à la Delta Green, mettons. Vous jouez des jeunes ou alors des gens qui sont des ufologues pourris, amateurs et tout. Ils viennent pour prendre des photos parce que soi-disant il y a un objet volant non identifié qui va se pointer. Ils prennent les photos, ils y croient pas. Et en réalité, ils ont réellement pris des photos d'un truc atroce. Par malchance. Il y a ça qui peut se faire à notre époque. Et le truc qui marche super bien, ça s'est tiré d'un scénar, c'est génial, c'est la séance d'hypnose. Ou alors de prise de contact avec des morts. On a l'impression que ça n'a pas marché, mais en réalité ça a marché et on s'en apercevra plus tard dans le scénar. Ça c'est énorme. Je vous dirai pas de quel recueil s'est tiré, mais c'est très très bon. JP.
Je suis en train de penser à une. Enfin, je travaille sur un scénar qui jouerait sur à la fois un monde virtuel et à la fois un monde réel. Donc les joueurs interpréteraient. Je vais y arriver. Des personnages d'un jeu vidéo online, par exemple, et en même temps jouerait le joueur à l'extérieur avec des implications entre les deux. Ça c'est un concept que j'aimerais bien essayer de mettre en place, mais c'est pas évident. Genre une zone du jeu qui est inaccessible, certains joueurs y sont allés et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, enfin certains joueurs virtuels, et puis dans la réalité les joueurs essaient de retrouver la trace du joueur réel qui est derrière
un peu, tu fais un Tron dans les contrées du rêve.
Ouais, je pensais plutôt à un manga que j'ai vu quelques images il y a pas longtemps.
Avec les mecs qui combattent là.
C'est quoi Art Offshore Online, un truc comme ça.
D'accord.
Et où les joueurs se retrouvent emprisonnés dans le jeu. S'il se déconnecte, il meurt, et s'il meurt dans le jeu, il meurt vraiment. Il y a des concepts comme ça, ça pourrait être pas mal.
As-tu une autre idée, Steve?
Scénario à dominante militaire, vous faites jouer des personnages qui sont des soldats, par exemple, ou des sauveteurs. Hein. Vous commencez par une bonne petite formation où vous leur mettez le vent en poupe. Alors, vous êtes la crème de la crème! On va vous envoyer là-bas et vous allez régler le problème immédiatement! Enfin, vous les mettez vraiment.
Ils peuvent démerder, le soldat Ryan!
Vous leur donnez des matos de fou. Il faut vraiment qu'ils s'y sentent à fond la caisse. Et puis ensuite, vous les parachutez, vous les larguez dans une zone extrêmement hostile et inquiétante, tout seul. Et vous faites vraiment la rupture, c'est-à-dire qu'avant il faut vraiment des hymnes nationaux, de la musique militaire, et ensuite quand ils arrivent, petite musique glauque, aucun bruit. Ça marche bien.
Une idée aussi qui marche pas mal, bon bah c'est assez basique, ça marche que quand les premières fois vous le faites, mais c'est passé de l'autre côté. C'est-à-dire que vous faites jouer des sectateurs.
Ouais.
Ça marche pas tout le temps, mais les premières fois ça marche, je peux vous assurer que quand le mec prend son pouls et c'est pas ce qu'il en a pu.
Ah oui.
Vous vous préparez quelques petits problèmes, genre, mais pourquoi il y a zéro sur ma fiche de perso? Non, mais c'est parce que
t'inquiète pas, c'est... j'ai oublié.
Ouais, ouais, ça peut être bien.
C'est tous les classiques où il y a le camp des gentils, le camp des méchants.
Et si les joueurs jouent croient jouer des gentils et servent le plan du méchant, sans le savoir. C'est une variante, hein, mais ça pourrait être pas mal.
Ça, c'est très très bon, et ça, c'est, par contre, ça, c'est vraiment le scénario dans le cul.
C'est chaud. Quoi, parce
que moi, j'ai déjà joué, et quand il
s'en rend compte après, ça fait mal.
Oh, t'es énervé, hein.
Mais c'est eux qui sont énervés.
Et ça, c'est vrai que pour une trame un peu originale, finalement faire croire aux joueurs qui vont résoudre le problème. Par exemple, il y a un truc tout bête, c'est balancer un sort. La plupart du temps, les sorts, on sait pas à quoi ça sert. C'est pour invoquer un truc de l'au-delà qui a des ailes flappantes et tout ça. Vous leur balancez un sort de portail, ils vont être persuadés d'aller fermer le portail. Et en réalité, c'est un sort d'ouverture. Steve, est-ce que t'as d'autres idées de ton côté?
Ouais, j'en ai une que j'aime bien exploiter. Mais bon, ça donne une couleur pour le reste du scénar. C'est pas vous qui visitez. Enfin, vous êtes prisonnier du type. Les gens rentrent dans une prison ou dans un asile. Et quand ils sont vraiment au centre de l'asile ou au centre de la prison, l'un des détenus va leur glisser, hein, vous avez pas compris, on était l'ancien personnel de l'établissement. Ce sont les détenus qui sont à notre place. Et si cette personne peut être la plus chelou et la plus folle possible, de manière à ce qu'on doute toujours de ce qu'elle dit, mais je peux vous garantir que tout
d'un coup. Ça va faire flipper les joueurs. C'est un peu Shutter Island, hein. Dans
le
genre.
Ouais, le coup de les mettre dans une situation finalement rassurante et faire ce que tu disais, c'est-à-dire le déclic en disant ben, finalement tout est faux et c'est l'inverse qui est vrai. Mmh. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de bien cibler l'ambiance pour pas qu'ils partent en cacahuète, qu'ils soient vraiment dans la merde et qu'ils puissent pas réagir de façon agressive, mais qu'ils soient obligés de faire de façon tactique. Quoi. Mmh. Ça, c'est pas mal. Ça, est-ce que vous avez encore d'autres idées, messieurs?
Bah, pour rebondir sur l'idée de l'asile, j'avais pensé à un truc où les joueurs interprètent des internés qui ont fini leur cure et qui sont relâchés, mais ils ont perdu la mémoire, ils savent pas qui ils sont, et ils vont devoir découvrir comment ils sont arrivés là, est-ce qu'ils ont fait, et bon là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, comme on dit.
Ça c'est pas mal, c'est vrai.
Parce qu'ils pourraient être autant des gentils qui ont été victimes ou des méchants qui ont été arrêtés. Ou peut-être les deux. Ou peut-être même dans le groupe, il y a les gentils et les méchants, mais ça, ils ne savent pas puisqu'ils ont tout oublié. À coup d'électrochoc.
Ouais. Après, quand on va dans le spécial, hein, il peut aussi se réveiller dans un corps qui n'est pas le leur.
Ouf. Bien beau, quoi.
Ouais.
Ça aussi, c'est assez... par exemple, surtout dans ces cas-là, vous faites bien décrire et tout.
Qu'est-ce que tu veux dire par dans un corps qui n'est pas le leur
Ah bah, c'est-à-dire que
dans un corps. Non, mais j'avais pensé à autre chose parce que tu peux parfois te rêver. Non. Mais il est. Oui, voilà, bah, c'est.
Et oui, car il est plus de minuit.
Ouais, on avait dit pas de blague graveleuse avant minuit, hein.
Les classiques pour Cthulhu, on avait dit aussi, il y a les contrées du rêve. Par exemple, vous commencez par un scénar Medfan, et en réalité, le scénar Medfan, il se passe dans les contrées du rêve. Donc finalement, les joueurs jouent, et leurs alter ego les attendent dans le monde réel. Donc il y a des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Il y a pas mal d'idées,
Un truc que j'avais exploité dans c'est un scénario que j'ai mis sur TOC déjà. C'est un scénario 1920 et puis une suite mais qui se passe de nos jours où les joueurs interprètent les descendants d'eux ou les.
Ça c'est très bon ça quand t'as une sorte de malédiction dans la famille ou un truc un artefact qu'on se passe et tout ça et finalement de se dire que c'est sur plusieurs générations, sur même plusieurs époques, ça va être
prévoir une timeline sur plusieurs époques, plusieurs histoires et ne pas nécessairement les faire jouer dans l'ordre chronologique. Ça peut être drôle aussi.
C'est bon ça, ouais.
Parce que au bout d'un moment, ils vont croire que tu leur fais jouer des choses complètement séparées, mais au bout de 3-4 scénarios, ils vont commencer à établir des liens. Et là, ça peut être drôle. Ouais. Mais bon, c'est sur le long terme.
Hein. Dans l'idée du truc que je l'écrivais avec une scène qui voit la troisième personne et après on commence, il y a aussi, alors c'est un peu plus chaud, j'ai jamais testé, mais on commence par la fin.
Ouais. Mmh. Ouais. C'est chaud. C'est chaud, mais c'est excellent.
C'est-à-dire que tu commences, le mec, il a réussi à choper une carabine avec machin, avec visée et tout, et finalement, il tire dans la tête du prêtre et tout, la cérémonie se termine, machin, ça part en cacahuète, et là, au moment où fondu au noir, et on repart dans un bar à Boston, j'ai une mission pour vous, j'ai un héritage.
t'as aussi un truc qui peut fonctionner. Dans un autre genre, c'est tu leur présentes une mission. Bon sens, c'est incroyable. Les enfants sont détenus par ce fou furieux retranché dans les couloirs souterrains. Il va mettre sa menace à exécution si nous ne lui livrons pas le livre de Takanatoa avant 17h. Il va exécuter les enfants. Vous avez 5 heures. Et là, tu démarres un chronomètre et tu le poses devant les joueurs avec marqué 5 heures dessus.
À la 24 heures chrono.
Ça marche super bien. Ça marche aussi ce qu'on nous disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'inoculation d'un virus.
Ah ouais.
Avec un décompte.
En disant que vous avez tant de temps. Et puis, à la limite, après, si tu veux faire la pulleur d'oignon, finalement, le virus, c'est pas un virus, c'est autre chose. Et puis le décompte, c'est pour autre chose. Enfin, c'est un truc à la con, quoi. Genre, ils ont l'impression d'avoir récupéré la formule du virus, mais non, c'est... Enfin, de l'antivirus, et finalement, ils ont récupéré la formule du virus, quoi, la mambole zboob.
Dans le genre inspiration, comme ça, avec des comptes à rebours, il y avait un film, là, In Time. Oui, les mecs avaient un compte à rebours qui était écrit sur leur...
Et à chaque fois qu'il l'utilise, ouais.
Donc le temps passé, il devait se faire recharger du temps, sinon il mourrait. Ça pouvait être pas mal.
Ou alors t'as Time Cop aussi avec Jean-Claude Van Damme. Donc, qu'est-ce que t'as d'autre? T'as des trucs... enfin, tu peux tout expérimenter. Ouais,
je crois que la plupart des mises en scène Ingress Media peuvent convenir. Hein. Ouais. Tu balances les joueurs dans une scène d'action, et puis tu reviens un peu avant, et puis tu repars au moment où tu les as laissés.
Ou plus calme, dans un procès, je sais qu'il y avait aussi un scénario officiel qui portait là-dessus. Il est 22h, vous penchez sur le corps, vous voyez le couteau à côté de lui, vous le ramassez, et là, que s'est-il passé? Je vous rappelle que vous témoignez sous serment. Et tu le mets au milieu d'une audience d'assises.
Tu retournes les chaises, et tu mets tout le monde à genoux et tout, et tout le monde doit prendre la parole un par un, c'est très bon ça.
Ça peut être pas mal, mais il faut quand même pas mal d'impro derrière de la part du MJ pour rebondir.
Carrément une super idée, comme le film 10 hommes en colère. Tu les fais membres d'un jury et finalement ils doivent retracer ce qui s'est passé. Genre le mec il a tué sauvagement, il a égorgé sa femme, il a sorti ses intestins grêles, mais apparemment c'est justifié. Vous êtes trois, c'est le jury, il va falloir trancher, vous avez...
Et puis de temps en temps tu joues des scènes, tu sais, comme si c'était une reconstitution auxquelles les gens pensaient. Et oui, ça a dû se passer comme ça, et là tu reviens dans l'action. Et ça te permet de jouer de l'action après une scène de discussion dans une table, autour d'une table. Quoi. Ça peut vraiment être sympa.
Alors après, tu peux puiser dans tous les scénarios du style à la Hitchcock. Tu joues des gens qui sortent d'un accident grave dans un train ou quoi que ce soit. Tout le monde est alité et le scénario commence comme ça. Mmh. T'as le méchant qui rentre dans la pièce. Je sais bien que vous pourrez rien me faire. Aucun de vous ne peut se déplacer de plus de 10 cm. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire dans les 10 prochaines minutes avec vos enfants. Pardon. Bon, mais je pense qu'on a bien lâché les trucs.
Ouais.
Est-ce que vous avez d'autres idées ou pas?
Non, pas sur le moment.
Plein, mais je les garde.
Après, si vous voulez faire un peu dans le fantastique, vous pouvez avoir la super mission pour aller dans l'espace et tout, et qui est censée se poser sur la Lune et qui n'arrive pas du tout au bon endroit. Vous pouvez être finalement le mec qui avait les boules, que l'accélérateur de particules, il crée quelque chose, elle avait pas tort, et vous jouez une équipe qui bosse en Suisse sous terre. Vous avez le mec qui était sûr que Tchernobyl il y avait quelque chose de pourri, et finalement vous jouez une équipe de mecs qui vont s'occuper de refaire le sarcophage, enfin des trucs.
Ça ne réussit pas en ce moment.
Mais, non, pas trop.
Je sais. Bon, ben, écoutez, okay. Si on résume, on a parlé du pourquoi, on a parlé de quoi on parlait, ça c'est pas mal, on a parlé des idées. Des inspirations, on a parlé du système, on a parlé de la façon de rédiger, de comment on rédige, de pourquoi on rédige, de ce qu'on rédige, de l'importance de la rédaction. On a dit ce qu'on devait faire si... Alors, on vous a pas parlé beaucoup de playtest, mais parce que nous, on est plutôt dans le coup du « je rédige et je joue ». On vous a même parlé du comment on pouvait doser un petit peu la durée. Comment faire le tri dans les bonnes idées, et puis de ne pas vouloir tout faire jouer. Et puis on vous a finalement donné des clés pour un peu renouveler le style. D'ailleurs, je pense qu'on vous en a donné pendant tout ce podcast. Maintenant, ce que j'espère, c'est que l'enregistrement va bien cette bonne idée, parce que ça serait con qu'on ait tout. Ça serait moche. J'ai vu que au plus haut, on avait eu 7 lecteurs en plus de nous.
Bene.
C'est plutôt cool pour un premier essai. Messieurs, je vous remercie.
Mais je te remercie.
En plus, bon, ce que je veux dire, c'est que ça vaut franchement une dizaine de blogs, de podcasts de la cellule, quoi.
On va commencer à dire du mal maintenant. Hein. on a tenu plus de 2 heures sans dire du mal. On va pas commencer maintenant. Et puis bon, ils font des chouettes trucs quand même.
C'est moche.
Ils ont parlé de moi aussi, hein, la cellule.
Ah putain, JP. T'as vu, c'est parce qu'ils ont parlé de toi.
Voilà.
Le jour où ils parlent de Steve, ce sera fini.
C'est un autre jour.
Ils vont peut-être t'inviter. Hein.
C'est déjà
moi. Ils t'ont invité, Steve.
Je ne dirais rien. Je te poignarderai dans le dos. Il attendrait le monde.
Bon, ben messieurs, je vous remercie, et à tous ceux qui nous ont écoutés, je vous remercie aussi, parce qu'en réalité, on touche quand même 50 euros à chaque seconde, donc c'est quand même pas mal. Et puis, bon, ben,
quoi,
ça a bien marché.
Non, les putes, elles restent dehors pour l'instant, on n'a pas fini.
Si ça a bien marché, on retentera le côté vidéo. Et puis sur ces bonnes paroles, de toute façon, ce podcast va être enregistré. Si ça s'est bien enregistré, je vais extraire la... C'est Chacapon, hein. Je vais extraire la...
Non, c'est le singe de Jade.
Hein? Et je vais extraire le son pour en faire un podcast audio.
Et ça sera bien.
Ben, messieurs, je vous remercie à nouveau, et puis je vous dis à la prochaine, de toute façon. Et puis, Louis les poulpes.
Bonne nuit, les petits.
Merci.